On va commencer Bezrat Hashem, notre cinquième cours sur le septième chapitre. Donc on est à la page, à la fin de la page, en bas de la page 194. Vous avez? Alors, donc je vais faire un point où on en est, et dans le point Bezrat Hashem, je vais répondre à la question. Voilà, comme ça c'est, voilà, comme ça on suit la structure. Donc dans les trois premiers chapitres de Guéret et Tchouva, on a expliqué longuement qu'est-ce que c'est la Tchouva dans l'aspect niglé, c'est-à-dire dans l'aspect halachique. Dans l'aspect halachique, on a expliqué c'est quoi la tchouva. La tchouva, ça veut dire décider de ne plus recommencer. D'accord? Ça, ce qu'on a expliqué dans les trois premiers chapitres. On a expliqué que la tchouva, c'est-à-dire je décide de ne plus recommencer. Bon. Ensuite, on a expliqué que, en complément de la tchouva, il fait froid?
Merci. Ah, d'accord. Oui, parce que je sors de...
D'accord.
Ah, d'accord. Après, je vais me réchauffer,
en complément, en complément à la tchouva, qu'est-ce qu'on a dit? En complément à la tchouva, à l'époque du Batamigdash, on avait les... Les corbanotes, qui après ont été remplacés par des jeunes, qui aujourd'hui sont remplacés par...
D'accord.
D'accord. Très bien. Ça, c'est ce qu'on a expliqué dans les trois premiers chapitres. Bon. Maintenant, on a expliqué que, à partir du quatrième chapitre, on a expliqué que tout ça, c'est très simple sur le papier. C'est-à-dire, bon, apparemment, c'est très facile. C'est quoi la teshuva? Je décide de plus recommencer, ça y est. Et dans les faits, on voit que ça tient pas. Dans les faits, on voit que les gens décident, mais que, dans les faits, eh ben, ils décident et ça marche pas. Donc, si ça marche pas, ça veut dire quoi? On a expliqué que si ça marche pas, ça veut dire qu'a priori, soit la décision n'était pas sérieuse, ça veut dire qu'a priori, soit la décision n'était pas sérieuse, soit il y a quelque chose, soit un élément qui nous manque. Bonsoir. D'accord? Donc de là on a expliqué qu'on a besoin de restructurer complètement la teshuva. Ce qu'on a expliqué de faire, ce qu'on a essayé de faire à partir du chapitre 4. Oui? À partir du chapitre 4, on a dit qu'avant d'expliquer qu'est-ce que c'est une mitzvah, qu'est-ce que c'est la vera, on va d'abord expliquer la différence qu'il y a entre le juif et le non-juif. Donc là, j'arrive à la question de Zerar. D'accord? On a expliqué qu'avant déjà de parler de la différence, qu'est-ce que c'est une mitzvah, bonsoir, qu'est-ce que c'est une avéra, il faut d'abord expliquer la différence qu'il y a entre un juif et un non-juif. Alors c'est là qu'on a expliqué, vous rappelez la différence entre la parole et l'insufflement? C'est quoi la différence? Merci.
L'insufflement, c'est-à-dire si on bouche, on met un obstacle devant.
Très bien, ça bloque. Alors que la parole, très bien, très bien. Donc on a expliqué la différence entre la parole et l'insufflement. C'est quoi? C'est que la parole, c'est quelque chose de superficiel. Alors que ce qui vient du fond, c'est beaucoup plus profond. Alors c'est la même manière, la différence qu'on a expliquée longuement, à partir du chapitre 4, entre le juif et le non-juif. Bien sûr que tous c'est des créatures. Tous c'est des créatures. Sauf que, dans un, le but de la création est beaucoup plus profond. C'est comme on avait donné l'exemple dans un film. Dans un film, tu as l'acteur et le figurant. Combien d'acteurs tu as dans un film?
Plusieurs.
D'acteurs principaux.
Un ou deux.
Deux, trois, d'accord, maximum. Combien de figurants tu as?
Milliers.
Des milliers.
Ça dépend du fait de l'homme.
Et pourtant, on sait bien que le film tourne autour des acteurs. Les figurants sont là seulement pour meubler, enfin pour que l'histoire tourne. Donc, de la même manière, on avait expliqué que le Ham Israël sont considérés des acteurs. C'est ça la particularité du Ham Israël. Bon. Après, on avait expliqué, donc à partir du chapitre 4, donc c'est bon, tu suis derrière la réponse? Non, pas encore. D'accord. Donc on a expliqué que étant donné que le Ham Israël, ça c'est le chapitre 4, là, on est déjà au chapitre 7, on avait expliqué qu'étant donné que le Ham Israël a été conçu d'une manière particulière, donc automatiquement il a des responsabilités particulières. Alors juste qu'on avait expliqué. Et donc automatiquement, lorsqu'il fait une mitzvah, il change quelque chose. Et lorsqu'il fait une avéra, il change également quelque chose. Alors on avait expliqué que lorsqu'un juif fait une avéra, qu'est-ce qui se passe? En plus, on a expliqué quelque chose.
Il donne vie à la mort.
Très bien. Il donne une vie.
À quelque chose qui est mort.
Il donne une vie à quelque chose qui est mort, exactement. Ça veut dire il donne de la vitalité à des choses qui ne devraient pas exister. Et à tel point que les forces du mal vont se mettre à le bûchonner, à le payer, d'accord?
Le rémunérer.
Bon, ça c'est des notions qu'on a vues déjà dans les cours précédents, je vais pas revenir dessus. D'accord? Pour qu'il continue à faire des avérantes. Très bien. Donc avec ça on a expliqué pourquoi chez un juif quand il fait une mitzvah, il fait page 194. Pourquoi chez un juif lorsqu'il fait une mitzvah, il peut changer le monde, et lorsqu'il fait une avéra, il peut aussi changer le monde. Très bien. C'est ce qu'on a expliqué jusqu'au chapitre 6. Après au chapitre 7, on a expliqué la chose suivante. On a dit que bon, tout ça c'est bien bon encore une fois sur le papier. Bon, tu m'expliques que la teshuva, c'est-à-dire je décide de plus recommencer. Tu m'expliques que le juif est différent, il est conçu différemment. Oui. Ça on a compris. Bon, tu m'as expliqué, j'ai bien compris. Mais dans les faits, on voit que même en sachant tout ça, on voit que dans les faits, ça ne change pas notre comportement. Donc concrètement, tu arrives devant la Vera, c'est pas cette but à dire bon, j'ai été conçu différemment, donc je peux pas la faire. La Vera, tu vas la faire. C'est pas ça ce qui va me faire une mitzvah. Donc c'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème ici, un problème de quoi? Un problème de conscience. C'est ça les deux points qu'on a expliqué. Donc, dommage, David, il est pas là ce soir, il a un mariage. David, il a noté, il note. Donc qu'est-ce qu'on a expliqué? C'est quoi les deux problèmes qu'on a expliqué? On a expliqué qu'il y a deux problèmes. Premier problème qu'on a, c'est quoi?
Comprendre quel est le problème.
C'est comprendre quel est le problème, exactement.
Quels sont les enjeux?
Réaliser l'enjeu. Le problème qu'on a, c'est que des fois, on vient à des cours, on écoute, mais en vérité, ça rentre une oreille, ça sort d'une autre, c'est même pas rentré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a écouté. Mais on n'a pas compris l'enjeu. Ça, on avait donné l'exemple des joueurs de foot, etc. Bon, voilà. Ça, c'est un premier point.
Deuxième point.
D'accord. Mais bon, aujourd'hui, on va s'arrêter sur le deuxième point. C'est le deuxième point, c'est-à-dire trois cours.
Détruire le moi.
Alors, deuxième point qu'on a expliqué, le plus grand obstacle qu'il y a chez l'homme, c'est le moi.
Le moi. Jeu,
d'accord. Je, le moi, enfin, comme tu veux.
L'ego.
D'accord.
L'ego, c'est le moi.
L'ego qui fait que quoi?
L'ego
qui fait que... Alors, et sur ça, même ceux qui n'étaient pas là au cours précédent, ça, au moins, on a une nouvelle notion ici, on peut s'arrêter dessus. Voilà. D'accord. On a expliqué, il y a deux grands obstacles qui font qu'avec tous les cours qu'on a dit sur la Teshuvah, concrètement, ça bloque. Premier obstacle, on a dit, c'est qu'on ne comprend toujours pas l'enjeu, et qu'il faut prendre du temps pour réfléchir à l'enjeu de ce qu'on fait. Bon. Et deuxième point, on a expliqué, c'est casser l'ego. Alors c'est vrai que ça paraît pas très chassidique, hein, on s'attend toujours. C'est vrai qu'on a l'habitude toujours de regarder les choses de manière positive, mais des fois, quand il faut taper, il faut taper. Parce que le problème, c'est quoi? On a expliqué longuement, le problème c'est quoi? C'est qu'à cause de l'ego, eh ben, du coup, on ne se rend plus compte de nos avérotes, et nos avérotes ne nous dérangent plus. Qu'est-ce qui te fait l'ego? L'ego, il te rassure. Alors, vous savez, on avait donné un exemple une fois comme ça. On avait dit, ça veut dire quoi que l'ego me rassure? Lorsque je sais par exemple que quelqu'un de ma famille, disons ma femme a un défaut, ça me dérange, j'arrive pas à dormir. Lorsque je sais que moi j'ai un défaut, est-ce que j'arrive à dormir sur mes deux oreilles?
Des fois non.
Hein? En général.
Parfois non.
En général, que j'arrive.
On survit. Hein,
ça, survie. Survie. Quand tu vois un problème chez un autre, tu dis comment on va faire? C'est très grave. Ça t'angoisse. Quand t'as un problème chez toi, ça te dérange pas. Pourquoi? C'est ça le problème de l'ego. C'est que l'ego couvre tous les défauts. Donc là, on va devoir casser l'ego.
On a peu de modèles aussi.
D'accord. Bon, il n'y a pas de problème, on n'est pas en train de...
Non, je veux dire, on n'a pas tellement de modèle de référence.
J'ai compris.
À part quelques rabbinimes spéciaux, l'origine du temps, on a...
La Torah, c'est le modèle, c'est le mode d'emploi.
Oui, non, mais...
C'est pas incarné, quoi.
Si c'est pas incarné, ouais. C'est difficile, tu vois.
J'ai compris. Bon. Donc, on a expliqué, il faut casser l'ego. Ça veut dire quoi de casser l'ego? Là, on a commencé à donner des exemples très, très clairs et très concrets. On a expliqué une notion très importante. On a expliqué que chaque fois qu'on fait une avéra, vous rappelez la notion des nuages? Qui se rappelle la notion des nuages qu'on a expliqué il y a deux semaines? Qui se rappelle? Zera, tu te rappelles? Vas-y. Tu en as expliqué, oui, vas-y.
Chaque fois qu'on fait une avéra, on crée un nuage.
Alors, donc le prophète, il compare les avérotes à des nuages. Ça veut dire qu'on crée un nuage. C'est-à-dire, chaque fois qu'on fait une avéra, on crée un nuage qui va nous séparer entre le juif et Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand des fois, c'est pas des fois, c'est souvent, d'accord? On est en train d'essayer d'étudier, on est en train d'essayer de prier, et on sent que ça prend pas. On sent que ça nous intéresse pas. Comment ça se fait? C'est pas normal, normalement ça devrait nous intéresser, c'est conçu pour nous intéresser. Ouh là là. Alors.
Oui,
oui. Non, je m'arrête pas, je continue, mais...
Quand
il y a beaucoup de matériel, le spirituel a du mal à passer. Bon, mais ça va. On va se rattacher, on va se débrouiller. Donc je suis en train d'expliquer. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui. On est en train d'étudier,
les nuages.
D'accord, on est en train d'essayer, des fois tu es en train d'essayer d'étudier, on est en train d'essayer de faire une fila, d'essayer de penser à quelque chose de spirituel, et on sent que ça prend pas, on sent qu'on est ailleurs. Pourtant c'est conçu pour nous toucher. Donc, on a envie de dire, bon bah c'est parce que le texte il est pas intéressant, je vais changer de bouquin. Le problème n'est pas dans le livre, le problème est chez moi. En quoi le problème est chez moi? C'est là qu'on a expliqué il y a deux semaines, Razak, la notion des nuages. Alors c'est l'Elul Nishmat.
L'Elul Nishmat, Esther Bat Kamra.
Esther Bat Kamra. Attention le livre, page 184.
Et comment tu fais le lien entre l'ego et les nuages?
Très simple, d'accord? On va y arriver tout de suite. Donc c'est quoi le problème? Le problème, c'est les nuages. C'est quoi les nuages? De la même manière que les nuages peuvent venir pour, on va dire, cacher la lumière. Alors, quand il y a beaucoup de nuages, plus il y aura de nuages, plus ça va cacher la lumière. Alors des fois, c'est possible que chaque nuage, comme j'ai expliqué, quand on prend l'avion, on voit que nous, d'ici en bas, on croit qu'il y a un seul nuage, mais en vérité, quand on prend l'avion, on voit que c'est plusieurs couches de nuages, et pas un seul nuage. Et que c'est plusieurs couches de petits nuages qui font que, ben, au final, c'est un gros nuage. D'accord? C'est plusieurs couches. De la même manière avec les avérotes. On a expliqué qu'il y a des fois des petites avérotes que nous on fait, qui nous paraissent petites. Sauf que c'est quoi le problème? Chaque avéra qu'on fait va assombrir la liaison entre le juif et Akadosh Baruch Hu. Ce qui fait que, en quoi ça s'exprime? Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de rapport avec Dieu. Ça veut dire quoi assombrir la liaison? Ça veut dire qu'on ne se sent plus connecté. On sent comme si qu'il n'y a plus de réseau, comme si que ça ne nous intéresse plus. D'où ça vient ça? C'est pas la faute à Dieu, c'est ni la faute à la Torah. Le texte est intéressant, le texte doit nous juger. Sauf que c'est quoi le problème? Le problème c'est que comme dit le prophète, on a bouché notre cœur. Le cœur est toujours là. Dieu est toujours là. La Torah, tout est là. Les outils sont là. Mais la machine a du mal à tourner. Pourquoi la machine a du mal à tourner? Puisqu'on a bouché, notre cœur.
Pourquoi on dit le cœur? D'accord.
Alors, le cœur c'est une image, c'est une image pour dire les sentiments. C'est-à-dire que des fois, même si l'intellect y est, on comprend, mais pourtant, on n'arrive pas.
Tu vois, je veux dire, la Neshama, pourquoi t'as choisi le cœur?
C'est l'image que le prophète donne pour nous montrer. On voit souvent qu'il y a des fois des choses qu'on comprend et qu'on n'arrive pas à ressentir. C'est pour ça que le prophète a fait appel au cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, des choses, on comprend que ça devrait être comme ça, et pourtant on n'arrive pas à ressentir. Pourquoi on n'arrive pas à ressentir? Parce qu'au niveau du cœur, il y a un blocage. Pourquoi il y a un blocage? Bien sûr, c'est sûr. Alors d'où ça vient un blocage dans le cœur?
Parce qu'on dit que tout se passe par la tête, par Orma bin Adam.
Oui, seconde. Oui.
Oui.
C'est une bonne question ce que tu poses.
Mais,
encore une fois, par exemple, des fois je veux aimer quelque chose, et j'ai un blocage. Ça veut dire que j'ai un blocage? Le blocage est où? Le blocage n'est pas forcément au niveau de la tête, parce que peut-être qu'au niveau de la tête, c'est clair que je dois aimer la chose. Mais j'ai un blocage. Pourquoi j'ai un blocage? Bah peut-être parce que j'ai eu une expérience négative, d'accord? Donc une expérience, c'est-à-dire que j'ai eu un vécu négatif, et donc j'ai un blocage. Mon cœur me bloque. Et c'est très très dur à enlever un blocage. Parce que quand c'est un blocage logique, d'accord? Un blocage logique, c'est pas très compliqué à enlever, parce qu'il suffit de t'expliquer le concept, c'est fini. J'ai compris. Sauf que le problème, c'est que la majorité des blocages qu'on a sont des blocages qui ne sont pas liés au cerveau. Ce sont des blocages qui sont liés au cœur. Non, deux secondes. J'y arrive, deux secondes. Donc, on a expliqué ça, parce qu'il faut arriver jusqu'au bout, après, avec plaisir. Après, on rentre dans les mots, après, vous posez toutes les questions. Donc, on a expliqué l'histoire des nuages. Qu'est-ce qu'on a expliqué, Yosef? C'est quoi l'histoire des nuages? Que plus on fait de Averot, et plus, d'accord? Et plus l'ego va prendre de la place par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire pas quand t'as un enfant qui ne fait pas d'avérante, etc. Ben quand tu lui dis il faut le faire, il le fait. Tu lui dis c'est Dieu qui a dit, pose pas de questions. Mais après avec le temps, on rajoute des couches. Parce qu'il fait après quand on te dit il y a ou Dieu, soit moi, ben moi mon ego je le sens et Dieu je le vois pas. Donc je dis bon, ben moi je fais ce qui me passe par la tête. C'est ce qui se passe. Et donc c'est là qu'expliquait l'Admor HaZaken dans le 7e chapitre. La deuxième étape très importante, c'est de casser son ego. Et pourquoi j'expliquais, qu'est-ce qu'on apprend de particulier dans l'histoire des nuages? C'est très important. C'est parce que un des problèmes dans la tête des gens, c'est que les gens pensent que tant qu'ils n'ont pas fait quelque chose de grave, c'est pas grave. Eh oui.
Qu'est-ce qui est grave?
A priori, non mais c'est vrai
ce qu'on a dit, tout ce qui est
c'est
grave.
C'est vrai.
Tout est grave.
Tout, alors justement, c'est ça qu'on parle des nuages. Qu'est-ce qu'on veut t'amener avec cette histoire de nuages? Les gens dans la tête, ils disent, écoute, ça va, j'ai pas fait les 400 coups. Je me comporte bien, je suis quelqu'un de bien, je suis un bon juif, je viens à la synagogue. Bon, j'essaye de bien me comporter, alors ça va, pourquoi tu me dis que je dois me casser mon ego, etc. Tu vas le dire à celui qui fait les 400 coups, moi je suis bien. Et c'est ça ce qu'elle voulait amener avec l'histoire des nuages. Elle voulait te dire, sache que c'est possible que tu as fait des petites avérotes, enfin des avérotes qui n'ont pas un effet énorme, mais une avéra plus, une avéra plus, une avéra plus, une avéra, ça fait un gros nuage. Et donc après, il ne faut pas s'étonner quand on ne dit pas qu'on n'a plus de relation avec Akadosh Baruch Hu. On n'est pas en train de parler de punition de Gehinnom ici. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. On est en train de parler de communication avec Akadosh Baruch Hu. À un certain moment, la communication ne passe plus. Parce qu'il y a trop de nuages. Et donc, le rôle de la Teshuvah, c'est quoi? C'est d'essayer de supprimer un maximum de nuages. D'essayer de se travailler un maximum sur un maximum de détails. Chaque détail, c'est un nuage. Chaque détail sur lequel je me travaille. Chaque détail. Chaque chose que je voulais faire, que je ne fais pas. Ça, à chaque fois, un nuage d'enlever. Plus on enlève des nuages, et plus progressivement, la lumière va arriver. Maintenant, on a expliqué la semaine dernière, et on s'est arrêté sur ça, donc là je vais reprendre dans les mots, on a expliqué qu'il y a des avérotes qui nous paraissent pas capitales, mais qui ont un effet aussi néfaste que les avérotes capitales. C'est quoi les avérotes capitales? Il y en a trois. Trois avérotes capitales, c'est quoi? C'est Avodazara, Giloui Arayot, Shfichut Damim. Avodazara, l'idolâtrie, Giloui Arayot, c'est l'inceste, d'accord? Et Shfichut Damim, le meurtre. Trois avérotes capitales. Alors on a expliqué que il y a des avérotes qui ont un effet aussi néfaste que ces trois avérotes, d'accord, sans nous paraître aussi graves. Donc on a donné des exemples. C'est quoi les exemples qu'on a donnés? On a dit par exemple, parfois même les trois en même temps, exactement. On a dit par exemple la colère. Vous rappelez? La colère. Bah si, ça va. La colère, est-ce que c'est une avéra la colère? Non. Est-ce que c'est une névéra la colère?
Non.
C'est écrit nulle part dans la Torah, tu ne t'énerveras pas. Il n'y a pas, tu cherches dans les mitzvot de la Torah, il n'y a aucune des mitzvot, des 613 mitzvot qui dit que tu ne t'énerveras pas. Ça n'existe pas. Et pourtant, qu'est-ce qu'on dit? La colère peut avoir un... La Gemara nous dit que la colère peut avoir un effet aussi néfaste que Calavera, qu'Avodazara. Alors ça veut dire quoi?
Crie le même nuage que
Avodazara. Exactement. Ça c'est un cri du jet de Mourazakaï. Ça veut dire quoi que ça a un effet aussi néfaste que l'Avodazara? Ça veut dire que ça va créer un nuage, ça va créer une séparation entre le juif et Dieu aussi forte que s'il avait fait Avodazara. Voilà, on a dit quand je m'énerve, c'est comme si j'étais en train d'une aiguille, c'est la même chose. L'effet que ça fait sur Maneshama, la rupture qui se passe entre Maneshama et Dieu, c'est la même chose. Ça, on a expliqué.
C'est le simple fait de rentrer dans une aiguille, c'est Avodazara?
C'est sûr.
Ah ouais?
Ah oui. D'accord. Alors, on a...
Là, c'est du relationnel.
Ah oui?
C'est quoi du relationnel?
Non,
est-ce que ça crée le même nuage ou est-ce que ça vaut d'azard?
Je crois que j'ai vu le grand rabbin, parce que je me trompe, le grand rabbin italique et...
Non, mais il y a des...
Il rentre jamais, il s'arrange toujours pour soit aller dans la cour, soit aller dans...
Mais dans la cour, c'est bon?
Il y a des rabbins qui ont fait des bêtises, mais...
C'est très compliqué. C'est une question très compliquée.
Si c'est un intérêt...
Non, je dis ça parce que...
Si c'est un intérêt artistique, c'est
abondant. Non, on aura tout ça. On n'a pas le droit même de...
Même de
rentrer comme ça.
Ah, mais...
C'est sûr. Combien de fois ça m'est arrivé quand j'étais en Italie? Tu rentres dans un endroit, je dis, waouh, c'est beau. Tu rentres et tu vois, c'est la femme là.
Ah ouais, si tu vois le vivant, ouais, c'est sûr que...
Combien de scènes j'ai dû effacer de la caméra? Tu n'as filmé, tu vois de loin, tu fais un zoom, tu fais, ah mince, il y a une croix. Bon.
Et alors,
tu dis la même chose de mosquées, par exemple?
Non,
parce que mosquée,
c'est pas Avodazara. C'est des bêtises, mais c'est pas Avodazara.
Le temple protestant.
Il n'y a qu'une croix en bois, mais
c'est pareil.
Il n'y a pas de
reproche. Le temple protestant, il n'y a pas de représentation.
Le
temple protestant.
Ah, c'est autre chose.
Ça, tu veux dire que l'église vraiment...
Ah oui. Non, pas. On va avoir du coca. Alors, Leilou Nishmat, on a dit...
On a eu 30, t'as eu ça? Tu peux pas?
Esther Batkamra.
Oh, Ram Chakol et Mishbar.
Esther Batkamra.
Amen.
J'ai une question après.
Ouais, d'accord. Donc, on a donné encore d'autres exemples. Après, on arrive à la question avec plaisir. On a donné encore d'autres exemples. Et on s'est arrêté sur cet exemple la semaine dernière. Et on était resté avec une question. On avait expliqué que l'Ashonara.
La colère.
La Gemara dans le traité Achin.
La colère.
Voilà.
L'Ashonara.
Alors, on avait donné... Non, dans l'ordre. On va suivre l'ordre que vous avez donné. D'abord, on avait expliqué celui qui ignore la tzedaka. Vous vous rappelez ça? Celui qui ignore la tzedaka. Oui. Ignorer la tzedaka. Quand je passe à côté de quelqu'un... Non, je fais comme si j'ai rien vu.
Un juif?
D'accord.
Un juif?
Peu importe.
Ah, peu importe.
Peu importe.
Et c'est d'accord aussi pour un juif?
Bien sûr, pourquoi? Il mange pas?
Non, mais je veux dire, tous les mecs qui se tapent à la
c'est pas la mitzvah, c'est pas la même mitzvah que la tzedaka.
C'est
pas la même mitzvah que la tzedaka, mais on est obligé de donner aussi aux non-juifs. Pour le shalom.
On est obligé de donner à chaque fois, non?
Non. La question, c'est pas ce qu'on est obligé de donner. La question, c'est le sentiment que j'ai quand je donne pas.
Ah oui, ah oui, d'accord.
Est-ce que je zappe? Ou est-ce que je dis bon, j'ai pas de quoi?
Non. Ça veut dire quoi?
Comment ils disent dans le métro? Ils disent une pièce ou un sourire?
Ouais, mais c'est
ça,
mais
aujourd'hui, j'ai dit ça, c'est fini aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une pièce ou un coup de boule?
Non, une pièce
ou un coup de boule. Ah, d'accord.
Une pièce ou je te saoule avec l'accordéon?
Ça donne à chaque personne
qui rentre. Maintenant, ils sont à deux. Il y en a un qui joue à l'accordéon et l'autre qui vient avec cette pièce.
Oui, qui massacre un bouton de morceau de musique et l'autre, ça dure deux stations et
ça. D'après ce que tu dis, il faut les donner à chaque fois.
Non, j'ai pas dit qu'il faut donner à chaque fois. J'ai dit qu'il faut, il faut pas zapper. Ça, c'est dans la tête, attention.
Non, en français, ça veut dire quoi, pas zapper? Pas ignorer.
Oui, non, j'ai dit zapper. C'est pas,
zapper, que... c'est pas clair. Ça.
Oui, mais zapper, c'est voilà, clair. C'est comme tu prends la télécommande, tu zappes.
Ah oui, mais ça, c'est en français, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire faire semblant d'ignorer.
Oui. C'est-à-dire faire semblant d'ignorer.
Si tu le regardes, tu dis non, je te donne pas, c'est pas navola.
Non, c'est pareil. C'est la même chose. Dans ma tête, c'est-à-dire que dans ma tête, je l'ignore. Il me dit rien, j'en ai rien à faire de lui.
C'est
ça,
pas,
c'est un problème.
Tu peux pas faire semblant de passer devant lui et ne rien dire.
Non, mais c'est pas importe que je dise ou que je dise pas. La question, c'est quel état d'esprit j'ai envers lui. Donc là, encore une fois, est-ce que c'est une avéra? Non, c'est pas une avéra. Oui, tant que je n'ai... C'est pas une avéra parce que on a expliqué que c'est possible que je vais avoir un sentiment que je n'ai pas envie de donner pendant 10 minutes et après je vais finir par lui donner.
Mais si tu lui dis j'ai pas leur que t'as.
Mais oui,
tu l'ignores ou tu l'ignores pas?
Non. La question c'est pourquoi tu. La question c'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là?
Pas pour toi.
Non, c'est bah c'est j'ai, mais je peux pas te donner, alors je te dis que j'ai pas.
D'accord. Bon, ça.
Tu l'ignores pas.
D'accord. Tu l'ignores pas. La question c'est est-ce que dans ta tête tu as dit bon j'en ai rien à faire. Il y a quelqu'un qui souffre. Ça ne fait ni chaud ni froid.
Ah, d'accord. Si je compatis avec toi.
Non, mais ça, c'est le fait
plaisir. D'accord. J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Je vis ma vie. T'es pas content, tu vas travailler, tu me laisses tranquille. D'accord. Tu vis ta vie, je vis ma vie.
T'es pas sensible.
J'en ai rien à faire.
Non, mais t'es pas sensible.
Alors ça, encore une fois, est-ce que c'est une avéra? Pas forcément. C'est pas forcément une avéra. Mais l'effet que ça a sur la personne, sur la communication qu'il y a entre un juif et Dieu, sur la neshama, est aussi grave, on a expliqué que quoi? Que la avodah zara. L'effet que ça a sur la personne. C'est vrai. Enfin, on avait donné un troisième exemple, le lashon hara. Lorsqu'une personne fait du lashon hara, la Gemara Echi nous dit, ça dit que quoi? Que faire du lashon hara, ça équivaut aux trois averot ensemble. C'est quoi les trois averot capitales, on a dit? Donc on a dit, avodah zara, l'idolâtrie, le meurtre, d'accord? Enfin, l'inceste et le meurtre. Alors, ce matin, on a posé la question, on a dit, pourquoi dans le lashon hara équivaut aux trois averot? Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier dans le lashon hara? Donc je suis parti voir dans la Gemara, parce qu'on était resté sur la question. Je suis parti voir dans la Gemara, le commentaire qui est autour de la Gemara, donc le Marsha, Rabbi Tzedaka Kohen de Lublin, Torah Pima, enfin plusieurs commentaires.
Français?
Non, en hébreu.
Bon, bah, qui ont la même notion du lashon hara que...
Oui, oui, oui.
Parce qu'on avait vu qu'il y avait deux.
Oui,
qu'il
oui,
avait
oui. Deux, non, la même, non, mais ça, par rapport à ça, ça ne change pas.
D'accord.
On va au Hachem aujourd'hui, il y a des CD, on fait des recherches, on trouve des choses extraordinaires. Alors... Donc bon, j'ai trouvé des commentaires que bon, jamais j'aurais pu tomber dessus comme ça, quoi. C'est des commentaires, le livre, il y a des livres qui n'existent même plus, enfin, qui sont même plus imprimés. Et donc j'ai vu le commentaire de Rabbi Tzedaka Kohen de Lublin. Très intéressant, il dit comme ça. Il analyse l'histoire de Yosef.
Ah, pas David, mais Yosef.
Yosef, il n'y a pas longtemps qu'on vient de finir le Chumash Bereshit.
Oui.
D'accord. C'est quoi la base de l'histoire de Yosef? D'où a commencé toute l'histoire?
Il se croyait supérieur à ses frères.
Il se croyait supérieur à ses frères, et il racontait du lashon hara à son père, sur ses frères. Mm. Bon. Suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu
le tuer.
Donc on vient d'avoir le meurtre.
Mm-hmm. Ils ont parlé entre eux pour le voir.
D'accord. Ensuite, on a dit, c'est donc ça, déjà on a tué. Merci. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Il nous reste l'idolâtrie et l'inceste. L'inceste, on l'a retrouvé où? Ben, on l'a retrouvé des années plus tard, lorsque Yosef était chez Potiphar, qui est la femme de Potiphar. Il est embêté. Donc là, on a l'inceste. Attendez.
Potentiellement.
Une seconde. Oui, mais c'est-à-dire qu'il a une épreuve par rapport à ça. Qu'est-ce que Rachel nous dit? Rachel nous dit que Yosef a une épreuve.
C'est pas la même chose d'avoir une épreuve.
Deux secondes. D'accord. Donc il a une épreuve. Il a une épreuve autour de ça. Seconde. Avodah Zara, c'est quoi Avodah Zara? Yosef, à un certain moment, il était en Égypte.
Il a été voir le panetier, il lui a dit, est-ce que tu peux intercéder auprès de Pharaon?
Exactement. D'accord. Ça veut dire qu'à un certain moment, il s'est mis à oublier. Il s'est mis à oublier le fait que la providence. Donc il comptait sur le maître panetier pour l'en sortir d'ici. D'accord. Explique Rabbi Tzedaka Kohen de Lublin, il dit comme ça, quelque chose d'extraordinaire. À cause de quoi c'est venu ces trois problèmes, qui sont trois éléments clés de l'histoire. Ces trois éléments clés de l'histoire, ce que je viens de dire. À cause de quoi ils sont venus? À cause du lashon hara qu'il avait fait. Et c'est pour ça que tant que Yosef n'a pas fait un tikkun sur le lashon hara. C'est-à-dire que tant que Yosef, à quel moment Yosef a senti que, ça y est, son tikkun il avait fait, c'est quand, à la fin de l'histoire, dans la paracha d'il y a deux semaines, qu'est-ce qu'on a vu à la fin de la paracha Vayechi, il s'est mis à bien parler à ses frères.
Oui.
On voit comment il a un langage extraordinaire. Il leur dit, ne vous inquiétez pas, c'est pas vous, c'est Akadosh Baruch Hu, je ne vous en veux pas.
Oui, il est installé aussi. Hein.
D'accord, oui, d'accord. Oui. Non, mais il était installé, mais il leur a bien parlé. Rien ne l'obligeait à bien parler comme ça. Non, il aurait pu leur faire sentir. Il aurait pu leur dire, bon, je vous fais rien, mais j'aurais pu.
Ils ont voulu le tuer.
D'accord.
Oui.
D'accord. Pourquoi? Parce que, explique Rabbi Tzedaka Kohen de Lublin, c'est un des premiers maîtres du racidisme. Très très intéressant comme commentaire. C'est comme dans Google, dans ces CD-là. Après, il y a des liens, tu vas de liens, d'un lien à d'un autre, tu peux passer des heures comme ça.
C'est open source, c'est CD ou pas?
Non, pas open source, non.
C'est dommage, hein.
C'est quand même, excuse-moi, c'est tellement que le... Comment il s'appelle ce Rabbi? De l'oubli.
C'est tellement que je... Rabbi Tzedaka Kohen.
On n'a pas le même niveau, lui et moi, on est d'accord.
À son niveau? Non, deux secondes.
Mais je trouve que c'est discutable, sans...
Attends, j'y arrive.
C'est sur l'inceste que je discute, moi. J'ai pas la même notion d'inceste, alors, moi.
Surtout.
L'inceste, c'est l'adultère aussi.
C'est ça, c'est l'adultère. Parce que là, il a vu...
Non, mais
c'est une relation interdite.
Oui, une relation interdite.
D'accord.
Donc, ce qui explique, c'est comme, c'est-à-dire, on voit quoi? Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici que lorsqu'une personne commence par faire la Shonara, ça c'est le Marsha qui le dit aussi là-bas dans le commentaire, lorsqu'une personne commence par faire la Shonara peut amener une personne à faire ces trois avérotes là. Alors là, nous on n'a pas expliqué ça de la même manière la semaine dernière. On a expliqué que non. On a expliqué que le Lashon Hara crée un nuage aussi fort,
voilà.
D'accord, que ces trois avérotes ensemble. On sait qu'il y a une histoire qui est racontée dans le Midrash. Le Midrash raconte l'histoire suivante. Il raconte qu'une fois, il y avait quelqu'un qui est venu voir un rav. Il a dit, j'ai un grand problème. Voilà, je vole, je tue. Je commets enfin, toute la vérote possible et imaginable. Et je veux faire teshuva. Par quoi je commence?
Tais-toi.
D'accord. Je veux faire teshuva, par quoi je commence? Par quoi je commence? Le rav lui a répondu la chose suivante. Et le Midrash raconte ça. Il lui a dit, tu vas commencer par prendre sur toi de ne plus mentir. Tu acceptes? Il dit, ouais, ça fait rien, c'est du gâteau, ça c'est tout ce que vous me demandez, de plus mentir? Plus mentir. Tu mens plus. Et là-bas, le Midrash raconte ce qui s'est passé dans la suite de l'histoire. Alors, il sort de chez le rabbin, il a envie de voler. Mais il se dit, mais qu'est-ce qui va se passer si on va m'attraper?
Ouais, je vais mentir.
D'accord?
Je suis obligé de mentir.
D'accord? Bon. Après, il rentre chez lui, il a envie de tromper sa femme. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe si ma femme me poser des questions? Je vais être obligé de mentir. Et comme ça, le Midrash là-bas, il raconte plusieurs étapes à laquelle il voulait faire une avéra. Et il s'est retrouvé à chaque fois à être bloqué. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de plus mentir. Ça veut dire, ça, c'est un exemple. On voit ici comme quoi, avec une mitzvah, ça peut nous sauver de beaucoup d'avérances.
Tu peux avouer ton meurtre, tu restes quand même meurtrier.
Oui, mais il n'a pas envie d'avouer son meurtre parce qu'il ne veut pas aller en prison. Ouais. Un bon meurtrier n'avoue pas, il s'arrange pour ne pas laisser de traces. Donc il ment. C'est-à-dire qu'il a réussi à trouver ce rave, une avéra, en tout cas pour cette personne, hein, je ne mange pas avant nous tous, ouais. Une avéra qui allait bloquer toute l'avérance. Donc je vais expliquer ici de la même manière par rapport à la Shonara. D'accord? Nous, on n'a pas le niveau de Rabbi Tzedek Hakohen de Lublin ou de la Gemara Echin pour savoir en quoi le Lashon Hara peut amener ces trois avérotes ou en quoi il a un effet aussi néfaste. Mais ce qui est clair, c'est que ce que la Gemara nous dit ici, c'est que quand une personne dit du Lashon Hara, et ce que j'entends par le Lashon Hara, c'est de la médisance. Ça veut dire qu'il est là en train de prendre un plaisir à raconter du mal sur quelqu'un. Le mal que ça fait dans la personne à ce moment-là, le mal, c'est beaucoup plus grave que les mots qu'il vient de dire. C'est le fait qu'il a pris du plaisir à dire du mal sur quelqu'un. Ça peut supprimer une relation avec Akadosh Baruch Hu, et ça peut prendre des semaines et des semaines de travail. Yosef, à son niveau, c'était du Lashon Hara. Alors c'est pas vraiment, en passant, c'est pas vraiment du Lashon Hara ce que Yosef a fait.
Justement, c'est pour ça.
C'est que Yosef, il allait raconter à son père des choses pas bien que ses frères faisaient pour les réparer. Donc c'était pas vraiment du Lashon Hara. Mais à son niveau.
Mais on peut pas prendre son exemple.
D'accord.
C'est pas du Lashon Hara vraiment.
Si, on va prendre son exemple pour récupérer la nuance. D'accord, pour expliquer que, voilà, on a vu chez Yosef que, pourquoi Yosef a tzadik? Yosef a tzadik, il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. C'est ça ce qui explique Rabbi Tzedek Hakohen de Lublin. C'est que quand il a vu que ces trois verrues lui tombaient sur la tête, il était toujours autour de ces trois choses. Trois éléments clés. Là, il y a un problème, là. Il dit, c'est pas possible, ça tourne autour de moi, là. Avodazara, Gilou Yarayot, Shuchut Damim. Et c'est là que Yosef a compris. C'est là seulement au bout de la troisième avéra qu'il a percuté, il a dit, ah! C'est à cause du Lashon Hara que j'avais fait. Et c'est là que le tikkun est arrivé. Tout de suite après, ça s'est arrangé.
Ça, c'est l'interprétation.
D'accord. Ouais. Ah oui, c'est une très très bonne interprétation.
Je te prends Myriam, étant la sœur de Moshe, on dit qu'elle a fait Lashon Hara à son frère.
Oui.
Je vois pas en quoi, par la suite, il arrive les trois choses.
Myriam. C'est vrai, oui. Tu as raison, mais encore une fois, parce que là, on parle de nuages, donc c'est pas en...
Ouais, mais Myriam, elle a déjà fait capara avec Salé.
Demain, tu veux changer d'appartement, toi. T'as besoin d'avoir un appartement, d'accord? Moi, je suis responsable du logement à Paris.
Bon.
Je suis le taulier. Tu m'en parles pas. Franchement, tu m'en parles pas. Tu me dis pas, tu sais, Jacob, je sais que c'est toi qui désigne les logements pour les gens. On se connaît bien. Moi, tu sais, voilà, j'aimerais déménager. Tu m'en dis pas un mot.
Qui a remarqué, Général?
C'est l'interprétation d'idolâtrie de Yosef. Il sympathise avec le panetier, etc. Il lui rend service, machin. Le panetier, le père de Pharaon, il dit attends.
Non,
je suis en prison depuis 2 ans.
L'erreur de Yosef à ce moment-là, c'est d'avoir compté sur le panetier. Pas d'avoir demandé au panetier.
Ouais, c'est différent. La nuance, elle est faible. Hein.
Bah, bien sûr qu'elle est faible.
Demander et compter.
Bah, bien sûr qu'elle est faible.
Quand tu demandes, quelque part, tu comptes.
Non. Quand je demande, c'est que pour moi, c'est le Kelly pour recevoir la bracha de Dieu.
Voilà.
Eh ben oui. Et là, le problème qu'il y avait, c'est que Yosef, il avait une nuance, c'est qu'à ce moment-là, il a compté sur le panetier. Et je lui ai dit, à ton niveau, c'est reprochable. À ton niveau, c'est de la voie d'Azara.
Même Yosef, il a compris qu'il avait fait.
Sûr qu'il a compris. Il a compris, il a tout de suite compris. Mais c'est des gens qui... Mais attention. Mais Le concept est là.
Ça veut dire que le gars qui est religieux, tu vois, je parle d'un gars religieux, pas comme moi, un mec vraiment religieux, le chapeau, la barbe et le costume, d'accord ?
Il prend le chapeau, c'est
pas possible. Attends, il fait mitzvot sur mitzvot, machin, etc. Un jour, il va dans le métro, il y a un mec qui joue la guitare, c'est un gitan. C'est un gitan, vraiment, il tente avec la croix, et il fait comme ça, etc. Et le mec, il dit, là, tu dis, ça va.
Alors,
c'est comme s'il avait tué un mec au coin de la rue.
Raphaël, il a raison. Il a Non, c'est pas tué, on a dit, c'est Avodazara. Raphaël, il a raison, il a dit que donner la tzaka à un goy, c'est pas dans le même registre que donner la tzaka à un juif. Donner la tzaka à un juif, c'est une mitzvah. Donner la tzaka à un goy, c'est mishum darke shalom. Mishum darke shalom, ça veut dire par politesse. Et pour pas qu'il pense mal sur les juifs. Tu comprends? Donc c'est pas la même chose.
Mais notre problème, c'était pas là-dessus. Notre problème, c'était sur le fait que tu... dans ton cœur,
oui.
Tu ignores son problème.
Voilà.
C'est ça son problème.
C'est ça, bah, oui. À ce niveau-là, c'est mon prochain, t'es sûr, hein. Mais c'est
ça que je veux dire, le gars, regarde le gars, il fait tout ce qu'il faut, etc. Et il n'a rien à faire digitant. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que je 10 fois, ou je le cambriole 3 fois. Pour moi, ça le touche pas. Et c'est comme s'il avait tué quelqu'un. C'est la folie, au niveau du nuage.
Tu as raison, c'est pour ça que l'Admor HaZaken nous dit ça. Pourquoi l'Admor HaZaken fait ça ici? La Admor HaZaken, rappelez-vous, c'est quoi la... Et bon, on a pris beaucoup de temps pour résumer, répéter. Bon, parce que c'est important, c'est très important ça. Alors...
C'est un petit nuage et des gros nuages.
C'est que la Admor HaZaken... on va rappeler la structure où la Admor HaZaken vient en arriver ici. La Admor HaZaken, on est dans le deuxième point, dans le deuxième problème majeur des hommes. C'est quoi le deuxième problème majeur des hommes? On a expliqué. C'est l'ego. Donc, il faut casser l'ego. Comment on casse l'ego? Donc, on est parti en crescendo. Tout d'abord, on a dit, c'est possible, tu as fait une grosse avéra. Possible. D'accord? Après, on a dit, même si tu n'as pas fait une grosse avéra, c'est possible qu'avec plusieurs petites avérotes, tu as fait un gros nuage. Ça, c'est un deuxième point. Après, on a expliqué un troisième point. Tu sais quoi? Même si tu n'as pas fait beaucoup de petites avérotes, disons, d'accord, que tu es un grand sadique, tu te prends pour un grand sadique,
voilà.
On va te l'accorder. Mais c'est possible que parmi les petites avérotes que tu as fait, il y en a qui ont un effet aussi néfaste que des grosses avérotes. Du style, ignorer la tzedaka, d'accord, s'énerver, donc il a pris des grands classiques, quoi. Pour te dire, bon, ça t'est pas arrivé une fois dans ta vie, d'accord?
On n'est pas à l'abri.
Voilà. Alors, tout ça pourquoi? Justement pour nous casser. Pour nous montrer qu'on est loin du compte. Et pour qu'à un certain moment, on se sente pas parfait. C'est ça le problème. Le problème, c'est quand on se sent parfait. Ça y est, moi je suis parfait, ça y est, j'ai pris ma vitesse de croisière. Pas du tout, on est très très loin de la vitesse de croisière. C'est là où il va en arriver ici. Alors je prends dans les mots, Velachen Sidro. Vous allez me laisser avancer quelques lignes. Est-ce qu'on aura toutes les questions? Velachen, c'est pour ça. Sidro, en bas de la page 194. Mais la reine, c'est pour...
Il vaut le coup, le
Geffen.
Qui c'est qui vend encore un peu?
Ah oui.
Mais la reine. Tu vas nous saouler, là.
Ah oui, il est bon. Il y a de la boue.
Pas pris, mais...
Mister... Non, pas Michel.
Tu veux le boire. Pareil.
Velachen, c'est pour ça. C'est bon. Sidrou, Vekriat Shema chez Alamita. C'est pour ça que les Chachamim ont instauré dans le Kriat Shema Alamita, le Kriat Shema qu'on fait juste avant de dormir. Les Chachamim ont instauré. Donc, quand on dit ils ont instauré, qui a instauré? Alors, c'est notamment le Ramban, Nachmanide, et ça a été repris par la suite par le Arizal. D'accord? Donc il y a un rituel particulier qui a été instauré par le Ramban et qui a été repris, donc qui a été étoffé par le Arizal. Bikriat Shema, chez Alamita, donc dans la structure du Kriat Shema qu'on fait avant de dormir, les Kabel Alav, que la personne doit prendre sur soi, Arba Mitat Beddin, Dalet Mitat Beddin, donc Arba Mitat Beddin, ça veut dire les 4 morts qui devaient être attribuées par le Beddin. Alors vous savez que le Beddin, quand dans la Torah on nous dit une personne devait être mise à mort, il y avait 4 possibilités de mettre à mort.
Ouais.
D'accord. Enfin, je ne vais pas vous enlever l'appétit, mais il y avait 4 possibilités. D'accord.
L'apidation,
alors, il y a Sila, Trefa, Hereg, Renek. Donc on va commencer. Sila, Saka, Lissakel, c'est lapidation. D'accord. Donc c'est quoi lapidation? Ça veut dire quoi lapidation?
Des pierres.
D'accord. Lapidation, alors, attention, lapidation c'est particulier. Lapidation, ça veut dire qu'on le jetait d'un étage. D'accord. Et que s'il n'était pas mort, on lui jetait une grosse pierre. Et que si la grosse pierre ne suffit pas. Si la grosse pierre ne suffisait pas, on rajoutait encore d'autres grosses pierres jusqu'à qu'il s'en aille. C'est horrible. D'accord? Bon. C'est ce qu'il a.
Ce qu'il a fait pour ça.
Ah. Pas fait.
Ensuite, tréfa. C'est quoi ce tréfa?
Brûler.
Comment on brûle?
Du plomb dans la gorge.
Très bien. Ça qu'on le prend, on le met dans le feu.
Ah bon?
Ouais. Ça, mais c'est encore pire le plomb dans la gorge.
C'est chaud.
parce que ça,
ça détruit l'intérieur.
C'est horrible. C'est mieux. D'accord. Ça c'est Sréfa. D'accord. Ensuite, Hereg. C'est quoi Hereg?
C'est pas l'étranger.
Hereg, c'est... Hereg, c'est au... Ah. C'est au glaive. Coupe la tête.
Ah, et d'accord.
C'est bon, c'est instantané. Il était là, il est plus là. Il n'y a plus. Là, il est mort. D'accord. Ça c'est Hereg. Renek. Renek, c'est la strangulation.
Le plus sympa, c'est encore d'accord. Le...
Il n'y a rien de sympa, je crois.
Bah ouais, parce qu'au bon, au moins, il meurt et c'est tout, quoi. C'est d'accord. Il a Sréfa, Hereg, Krenek. Il y a 4 morts.
C'est bien fait, bon.
D'accord. Et donc, on les appelle Arba Mitot Beddin. Bon.
On a reçu ouais. Laquelle on veut.
Non, pas du tout. On ne choisit pas.
C'est adapté en fonction
de la Averroth. Bon, alors maintenant, écoutez bien. Le Arizal, et c'est, donc on voit, c'est écrit dans le Sitour. Vous retrouverez dans le Sitour, dans le Kriyat Shema. C'est instauré que tous les soirs, avant de dormir, on dit, je prends sur moi ces 4 morts.
Ça veut dire quoi?
Ben voilà, c'est une bonne question, ça veut dire quoi? Voilà. On le dit, hein.
Ça, mais on le dit, moi, ça veut
dire quoi. Voilà encore une autre chose qu'on dit sans comprendre. Hein, c'est toujours quoi? Je prends pas sur moi les 4 morts, c'est quoi cette histoire-là? Il faut changer ce texte, c'est quoi ça? D'accord? C'est toujours que je prends sur moi les 4 morts. Ça, c'est des morts très graves.
Je suis d'accord prêt à les subir si jamais je fais des avérotes.
Oui, mais attends, mais je n'ai pas fait de ces avérotes.
Oui, mais si jamais.
Attends, ah mais non, une seconde. Ça c'est des sentences qu'on donnait aux gens par exemple qui ont fait des averotes de manière préméditée, en sachant que c'est interdit, en étant dans un milieu religieux, etc., en ayant été prévenu 3 fois, enfin c'est un contexte particulier. Ah pourquoi je prends sur moi ces morts? On le dit, c'est que c'est instauré. Pourquoi? Avec l'histoire des nuages, on va comprendre. Il a expliqué tout de suite comme ça. D'accord?
Mais non, ça dit que c'était pas...
Attends, on va voir.
C'est pas les avérotes.
J'ai raison, elle n'a pas fait d'avérotes. Pourquoi je prends sur moi? Pourquoi je prends sur moi? Alors, on va comprendre ça avec deux éléments qu'on a expliqués précédemment, qu'on vient d'expliquer dans le cours maintenant. On vient d'expliquer tout de suite deux éléments. Premier élément, on a expliqué que des fois on fait une petite avéra, mais étant donné qu'on fait plusieurs fois cette petite avéra ou plusieurs petites avérotes, ben plusieurs petits nuages vont former un gros nuage. Ça, c'est un premier point qu'on avait expliqué. Et un deuxième point qu'on avait expliqué, c'est que des fois, un de ces petits nuages peut avoir un effet aussi néfaste qu'un nuage énorme du style le meurtre ou l'adultère. Donc on a expliqué deux éléments différents. Imaginez-vous quand les deux sont combinés, hein, en passant. Imaginez-vous quand on a plusieurs... Bah oui, si j'ai plusieurs petits nuages...
Ça peut d'accord. Faire faveur, ça. Le gars peut dire si c'est pour ça, ou il va faire l'adultère.
Bon, ah, très bien. Ah ben non, bah, si. Attention. J'ai pas dit que c'est la même punition dans le ciel. Attention, pas mal
on comprend.
Ah non, j'ai pas dit ça. Coupé, j'ai dit que ça affecte la communication entre le juif et Dieu de la même manière. C'est très particulier ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que quand on va le juger, on va dire bon, c'est une petite avéra. Bon, il a fait 50 petites avérotes. 50 petites avérotes ne valent pas une grosse avéra. Sauf que... Si on analyse comment la communication entre le juif et Dieu a été affectée, c'est la même chose. Donc ça n'a rien à voir, on ne parle pas de punition ici. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le but du Tanya ici de parler de punition. On essaye d'expliquer comment ça se fait qu'on fait teshuva et que ça passe pas. C'est le grand problème d'aujourd'hui. Notre grand problème depuis toujours, c'est que on étudie, d'accord, on comprend, d'accord, on comprend l'enjeu, on est même passé par la première étape, on fait des cours dans lesquels on comprend, tu ressors, tu peux te le réexpliquer de A à Z, et pourtant, ça passe pas. C'est pas que t'en as rien à faire, mais que ça te fait rien, ça te touche pas, tu te sens pas concerné. D'où ça vient, ça? Ça vient du deuxième problème qu'on a expliqué ici, c'est l'ego. C'est petit nuage, plus petit nuage, plus petit nuage. Chaque fois que tu fais une petite avéra et que quelque part tu dis, bon, bah de ça j'en ai rien à faire, de ça j'en ai rien à faire, ça fait des gros nuages. À plus forte raison, quand c'est une petite avéra sur laquelle les rabbins nous disent qu'elle a le même effet, un effet aussi néfaste qu'une grosse avéra. Ah, c'est la catastrophe.
Mais ça vient de l'ego ou c'est ça qui fait que l'ego il va se développer?
C'est...
Est-ce que ça vient de l'ego ou est-ce que c'est
une conséquence ou un effet?
L'ego va se développer petit à petit.
Ben non, c'est l'effet.
C'est l'effet, c'est-à-dire que comme j'ai vu les nuages, au bout d'un
moment,
il n'y a plus de Dieu.
Au bout d'un moment, je ne ressens plus Dieu, donc c'est progressivement, moi. C'est moi.
Et comme c'est moi, ça enchaîne autre chose.
Ben oui, ça veut dire que imaginez-vous une personne, comme je disais la semaine dernière, imaginez-vous une personne. Il est sorti de chez lui le matin, il s'est énervé sur sa femme. Il a piqué une crise. D'accord? Ben c'est le même effet comme si qu'il était en train d'une église avant de venir à la synagogue, c'est la même chose. Pour la Neshama, c'est la même chose. Pour la communication qu'il y a entre le juif et Dieu, c'est la même chose. Après qu'on s'étonne pas quand on ouvre son livre, ça me dit plus rien. C'est ça. C'est ça le grand problème. D'accord. Ben oui.
Oui, mais c'est légitime défense.
Si le matin tu apprends que ta femme t'a trompé, tu t'es trompé, que tu arrives à la synagogue,
qu'elle t'a trompé, qu'elle veut te tuer.
Voilà. Mais si tu cries pas, mais tu l'as tué, tant que t'es pas mis en colère, donc c'est bon. Ça, le nuage n'est pas plus gros.
Alors, donc maintenant, avec ça, on va comprendre, messieurs, comment ça se fait. Comment ça se fait que dans le Kriyat Shema du soir, il faut savoir, dans la Chassidout, on explique que c'est un des moments les plus propices pour faire teshuva. Les gens pensent, si je vous demande, c'est quand le meilleur moment pour faire teshuva? Les gens pensent que le meilleur moment pour faire teshuva, c'est pendant la Amida, ou c'est le matin quand je veux me lever, d'accord? Ou bien, c'est quoi le grand piège du Yetzara? C'est que le soir, quand j'ai envie de penser à ma journée, il dit, demain on verra.
Demain il fera jour.
Demain il fera jour. Sauf que ça fait des années qu'il dit ça tous les jours, et t'as pas compris encore que demain, t'attendras demain soir, et que demain soir tu diras le lendemain matin. C'est pour ça que dans la Chassidout, on explique qu'un des moments clés pour faire teshuva. Et quand je dis teshuva, d'accord, j'entends pas ici teshuva dans le sens casser des briques. D'accord, j'entends teshuva dans le sens introspection. Introspection, et j'essaie de revoir ma journée et d'essayer de réfléchir dans quoi je peux m'arranger. Progressivement, mais dans quoi je peux m'arranger. Le meilleur moment pour le faire, c'est au moment du Kriyat Shema Lamita. Le soir avant de dormir. C'est le meilleur moment. C'est un moment dans lequel on peut s'asseoir, on peut réfléchir, on peut même s'allonger, et faire le bilan de ce qui s'est passé pendant la journée. On sait que chez les chassidim du rabbi précédent, d'accord, même à l'Yeshiva, quand on était à l'Yeshiva, on voyait, il y avait des fois des gens qui passaient une heure ou deux à faire le Kriyat Shema. Pourtant, le Kriyat Shema, 5 minutes, on peut le finir. Parce qu'avant de faire le Kriyat Shema, ils s'isolaient, d'accord, ils s'isolaient dans un coin et essayaient de revoir leur journée. On nous encourage à essayer de faire ça au moins une fois par semaine, une fois par mois, d'accord. Et essayer de faire un bilan, le soir. C'est le meilleur moment pour faire un bilan. Dans ce fameux Kriyat Shema, qui est le moment du bilan, c'est pour ça que le Kriyat Shema, c'est traduit aujourd'hui, je pense, c'est traduit dans les livres, le Kriyat Shema aussi?
Oui.
Bon. Vous verrez, dans le Kriyat Shema, non, attention, il ne faut pas dire que le Shema, il y a plein de choses autour.
Dans le CDR.
D'accord. Oui, il y a un ordre dans le Kriyat Shema. Dans le Kriyat Shema, vous verrez la structure du Kriyat Shema du soir, vous verrez que c'est principalement un bilan. Dans toutes les filottes de la journée, c'est principalement des demandes. Des demandes, des supplications, des louanges. Kriyat Shema d'histoire, c'est pas du tout des louanges. Avant de dormir, c'est pas du tout un bilan. D'abord, on va excuser toutes les personnes éventuelles qu'ils auraient pu nous blesser. On va les excuser en espérant qu'eux aussi vont nous excuser.
C'est d'accord. Et on dit même dans le...
Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que des fois, c'est un autre sujet. Bien sûr, oui. Parce qu'on essaye de pardonner même les personnes qui nous auraient blessés dans un gilgoul précédent, dans une incarnation précédente, bien sûr. Parce que c'est possible que leur neshama atteint un tikkun. En espérant que nous aussi, Dieu veut nous pardonner. Donc c'est un moment de bilan. Et dans ce moment de bilan, dans un des moments clés du Kriyat Shema, on demande à Kadosh Baruch Hu, on dit, je t'en prie à Kadosh Baruch Hu, fais comme si que je suis passé par les quatre morts. Pourquoi? Mais pourtant, j'ai pas fait d'Averot pour mériter ces quatre morts. Avec l'histoire des nuages, on va comprendre. C'est qu'on a expliqué qu'il y a des avérotes qu'on fait, qui ne nous paraissent pas aussi graves que des avérotes capitales, mais pourtant ont le même effet que des avérotes capitales. Très très important ce qu'il dit là de Morazaken. Tu sais, quand j'ai fait la recherche tout à l'heure cet après-midi sur le CD, j'ai vu qu'il y a des tas d'avérotes sur lesquelles les Rachamim me disent, celui qui fait ta avéra, c'est comme si qu'il l'a tué, c'est comme si qu'il l'a violé, c'est comme si qu'il l'a... C'est quoi c'est comme si? Mais pourtant c'est les petites avérotes. C'est quoi c'est comme si? Bah, c'est soit oui, soit non, c'est quoi c'est comme si?
Comme ça, il fait pas des avérotes, ça, hein.
Oui, avec ça c'est même pas des avérotes. Là, la réponse est là. C'est qu'il y a des avérotes qui nous paraissent basiques, qui nous paraissent même pas des avérotes, et que pourtant, elles sont aussi graves que des avérotes capitales pour lesquelles on aurait dû être mis à mort.
Ça colle pas avec les faits et pas la avéra à ce moment-là.
Ça colle pas?
Le tribunal, il peut tuer si jamais tu as
fait. Ah oui, ça colle pas du tout avec la punition d'en bas, ça n'a rien à voir. D'accord? C'est pas du tout le but. On n'est pas en train de demander à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi la vie, je vais mourir. C'est pas du tout de ça qu'on parle. On est en train de demander à Kadosh Baruch Hu de renouer le lien avec lui et de faire qu'on croit à ce qu'on raconte. C'est le plus dur. C'est le plus dur, ça, de croire à ce qu'on lit. Être dedans, vivre ce qu'on est en train de dire. Et donc, c'est pour ça, quand nous dit l'Admor HaZaken, Milvad, mis à part le fait que, Shalpi Asod, selon le Sod, donc selon le Sod, c'est-à-dire selon le secret de la Torah, Kol Apogem Beot Yud Shel Shem Avaye, Keilu Nitrayev Skila. Alors, ça, donc l'Admor HaZaken va expliquer ici deux points. premier pas, on a expliqué pourquoi. Je demande le soir pardon à Kadosh Baruch Hu, je dis fais comme si que j'ai été lapidé, fais comme si que j'étais ci, fais comme si que j'étais ça. Parce que c'est possible que j'ai fait une avéra qui me paraît insignifiante, mais qu'en vérité, cette avéra est aussi grave qu'une avéra pour laquelle j'aurais dû être lapidé. C'est ça un premier point. Maintenant, la Morazaken va aller encore plus fin que ça. C'est possible que bon, j'ai pas vraiment beaucoup de choses à me reprocher. C'est possible. Que j'ai pas, parce qu'il faut pas oublier que le créat de schéma, on le fait tous les soirs. Donc c'est possible que j'ai eu une journée qui était globalement correcte, dans laquelle j'ai pas beaucoup de choses à me reprocher. Bon, alors dans ce cas-là, cette journée-là, pourquoi je lis le soir ce texte ? Non, merci, après je comprends. D'accord ? Alors explique l'Admor HaZaken, c'est expliqué dans le Sod la chose suivante. Dans le Sod, donc c'est-à-dire selon le Harizal, c'est expliqué la chose suivante. C'est expliqué comme ça, je lis dans les mots. Kol apogam beotiud shel shem havaye. Dans le mot Yutke Vafke. C'est quoi Yutke Vafke ? Donc c'est les quatre lettres du tétragramme. Yudke Vafke. Vous avez remarqué, je dis pas Yud He, Yudke. D'accord ? Donc, on a quatre lettres. Le Yud, le He, le Vav et le Ke. D'accord ? Alors, les Rabbis disent la chose, donc selon le Sod, on dit la chose suivante. D'abord, je lis dans les mots, après on explique. Kol apogem veot Yud, tout celui qui fait un défaut dans la lettre Yud, shel shem avayé du shem du nom de Dieu, donc ça veut dire c'est la première lettre, le Yud, le premier Yud, keilu nitrayev ce qu'il a. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est comme si qu'il était, d'accord, c'est comme si qu'il aurait dû être, cette personne-là aurait dû être lapidée. Ve'apogam be'ot he, keilu nitrayev strefa. Celui qui a touché à la lettre he, alors on va expliquer après comment on touche à ces lettres-là. Keilu nitrayev strefa, c'est comme si que, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme si qu'il était coupable de strefa, on a dit soref, c'est quoi strefa, ça veut dire là? Non, strefa, soref, la brûlure. Donc par le plomb. Ou bien vav, celui qui a touché à la lettre vav, keilu nitrayev hereg. C'est comme si qu'il s'est rendu chayav, c'est comme si qu'il s'est rendu coupable de hereg. C'est quoi hereg? C'est, donc on a dit, c'est
décapitation.
Ou bien he acharona, et celui qui a touché à la dernière lettre, au dernier he, Keilu nitrayev chenek, c'est comme si qu'il était chayev de chenek, d'accord? Chenek, c'est quoi? Ça veut dire, on a dit, c'est la strangulation. Bon. Alors, bon, c'est bien beau dans les mots, mais bon, je veux dire, quel rapport?
Oui, c'est pas évident.
D'accord. D'abord, j'aimerais savoir, ça veut dire quoi celui qui touche à la lettre Yud? Comment je touche à la lettre Yud de Dieu? Ouais. Je dis, bon, je t'embête, je vais embêter le Yud. D'accord? Bah oui, d'abord, ça veut dire quoi embêter le Yud, premièrement? Et deuxièmement, quel rapport entre le Yud et lapidé? D'accord? Comment je touche le hé? Et quel rapport entre le hé et on a dit le hé c'est quoi? C'est brûlé. D'accord? Alors on va expliquer la chose suivante. On avait expliqué dans un des cours, il y a quelques mois, que yutke vafke, ça correspond à quoi yutke vafke? On va prendre la forme, d'accord, graphique de ces quatre lettres. On va commencer par le yud. C'est quoi la forme graphique
du
yud?
Le point.
C'est un point. Donc le point, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'étincelle. On avait expliqué la structure intellectuel et émotionnel de l'homme, on avait expliqué que toujours, il y a toujours un point par lequel ça démarre. Un point, qui est la source de tout. D'accord ? C'est une petite pointe. D'accord ? S'il y a un flash qu'on va avoir, on a quelques flashs comme ça dans la vie. Quelques flashs comme ça, et après, le reste, on va développer ce flash. Alors, vous avez des gens, comme dans le business, il y a des gens qui ont une idée, et après toute sa vie, va travailler autour de cette idée. On a quelques flashs comme ça dans la vie, et après, on développe autour de ça. Donc ça, c'est le yud. Ensuite, on avait expliqué avec le he. Vous rappelez, c'est quoi le he ? C'est quoi le hé? C'est le développement de cette idée.
C'est
bina dat. D'accord? C'est le développement. C'est le développement en long et en large. D'accord? C'est-à-dire qu'on avait expliqué ce que ça veut dire à quoi ça correspondait la longueur, à quoi ça correspondait la largeur dans l'esprit. Bon, je vais pas revenir dans ça. Ensuite, on a expliqué le vav, graphiquement. C'est quoi le vav? Non, mais c'est quoi le vav graphiquement? Comment il est le vav? Ça descend. D'accord? Le vav, c'est aussi la valeur numérique de 6. D'accord? C'est 6 qualités affectives, on les avait expliquées. D'accord? 6 qualités affectives, et surtout, graphiquement, le vav, ça descend. Ça veut dire, c'est quand ce qu'on a compris, d'accord? Va descendre vers les sentiments. Et enfin, le dernier, c'est quoi? C'est quand ces sentiments, une fois qu'on a compris et qu'on a eu le sentiment, on va passer à l'action, à la matérialisation dans tous les détails. Donc, yud, ke, vav, ke. Très bien. Alors maintenant, on va expliquer le rapport qu'il y a, d'accord? Le rapport qu'il y a entre ces quatre choses-là. Alors. Tout d'abord, on va voir quelle est la cause. Ça veut dire comment je touche à la lettre Yud dans la vie de tous les jours, comment je touche à la lettre He. Et après, on va expliquer quel rapport avec la lapidation, quel rapport avec chaque avère. Donc, on va dire encore quelques lignes. Vehamevatel, kriyat shema. Alors, une personne qui est Mevatel, qui est Mevatel Kriyat Shema. Mevatel Kriyat Shema, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a manqué de lire le schéma. Par exemple, il s'est réveillé trop tard.
Il s'est réveillé à 11h.
En ce moment, c'est plus...
C'est 10h45.
D'accord, en ce moment, c'est 10h45, mais en été, ça peut être très très tôt. Ouais. En été, ça peut être les coups de 9h.
Et puis c'est le premier quart.
D'accord. Donc le temps qu'il se réveille, etc., bon, il a raté le Kriyat Shema. Il a raté, bon, il savait, mais bon, il dormait, et il préférait dormir. D'accord. Amevatel Kriyat Shema. Alors, maintenant, on va lire dans les mots. Amevatel Kriyat Shema, celui qui ne veut pas faire le Kriyat Shema, Pogem Beot Yud, il touche à l'être Yud. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que j'ai expliqué tout à l'heure? C'est quoi le Yud? C'est quoi le Yud? Le Yud correspond à quoi? Le Yud correspond au point le plus fin qu'il y a. C'est quoi le plus fin qu'il y a? C'est quoi le plus fin qu'il y a chez nous? C'est la Emouna qu'on a vers Akadosh Baruch Hu. Donc celui qui ne veut pas faire le schéma, qu'est-ce qu'on a de plus sacré qu'on connaît? Même les gens qui connaissent rien du tout, tout le monde connaît au moins le schéma. C'est-à-dire que le schéma, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Donc celui qui manque de lire le schéma, parce que moi il préfère dormir, il a touché à ce qu'il y a de plus sacré. C'est quoi ce qu'il y a de plus sacré? C'est le Yud. Il a touché au Yud. Au Yud d'Akadosh Baruch Hu. On est d'accord? Ça c'est le Yud.
Mais je suis pas d'accord parce que il y a trois chapitres, on avait dit que.
Attends, une seconde, avant je suis d'accord, faut comprendre. Il n'y a pas de problème. Je parle selon le Sod. Encore une fois. Je dis pas que quand il va arriver en haut, on va lui dire, doit lapider.
Mais si, ce que tu dis.
Non, okay. C'est pas ce que je dis. Pas du tout. Encore une fois. Est-ce que quelqu'un peut remettre Yaakov, pour ramener la raison à Yaakov. Est-ce que j'ai dit que
c'est possible de lapidation?
Non, attention.
C'est l'équivalent.
C'est comme si.
D'accord? Bah oui. Ça veut dire que l'effet que ça a sur la personne est comme la lapidation. C'est selon le Sod. Bah oui, c'est ça le problème. Bon. Alors, c'est quoi la lapidation? C'est quoi la lapidation? On a dit que c'est punition, c'est la lapidation. La lapidation, j'ai expliqué tout à l'heure, c'est quoi? C'est que d'abord on le jette, mais surtout après on va lui jeter des pierres. Très bien. Qu'est-ce que la pierre peut nous dire chez un homme? Ça vous dit quelque chose d'avoir un cœur de pierre?
Imperméable.
Ah oui, c'est le Sod, attention. Hein, c'est... Le Sod, il faut être capable de chercher très loin. Un cœur de pierre.
Si tu jettes de...
D'accord. C'est quoi un cœur de pierre?
Imperméable.
D'accord. Un cœur de pierre, ça veut dire que...
Tu lui jettes des lingots d'or aussi.
Ça veut dire que ça ne me dit plus rien.
Ah, il aurait un cœur d'or là.
Ah oui.
Un cœur en or.
C'est quoi la pierre? Donc je répète, donc on va reprendre. D'accord. On a la lettre Yud, d'accord, qui correspond à la lapidation et qui y arrive à cause de quoi? À cause du Kriyat Shema. Quel rapport? On a expliqué que la lettre Yud, c'est quoi? C'est la plus petite lettre, c'est ce qu'il y a de plus primaire. Ce qu'il y a de plus primaire chez nous, c'est quoi? C'est la Emouna. D'accord? Ce qu'il y a de plus primaire dans la Emouna, c'est quoi? C'est le schéma. C'est quoi la punition? La punition, c'est la lapidation. Qu'est-ce qu'on parle avec la lapidation? C'est très simple. La lapidation, c'est quoi la lapidation? C'est qu'on jette des pierres. Quel rapport entre la pierre et l'homme, spirituellement? C'est très simple. C'est que quand on jette des pierres, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il bouche notre cœur de pierre. Qu'après, on sent que ça nous parle plus.
C'est
la punition.
C'est le rejet.
Exactement. Ça me dit rien. J'en ai rien à faire. J'ai le cœur bouché comme une pierre. J'ai un cœur de pierre. Froid. Ça, c'est la punition. Ça, c'est la punition. C'est ça qu'on pense quand on parle dans le Kriyat Shema. On parle pas de lapidation. Lapidation qu'on va me lapider. C'est clair que personne va me lapider ici. Il n'y a pas fait d'avoir pour me lapider. Vous savez ce qu'il faut faire pour me lapider? Il faut être méchalel le Shabbat. Il faut transgresser le Shabbat de manière préméditée. D'accord? J'ai pas transgressé le Shabbat pour de manière préméditée. Alors, pourquoi tu veux qu'on me lapide? On parle pas ça.
Avec des témoins.
D'accord? Avec des témoins, et on m'a prévenu trois fois, etc. On parle pas de ça. Ah, pourquoi, de quoi on parle dans la lapidation? On parle pas de la lapidation physique. On parle de la lapidation spirituelle. Akadosh Baruch Hu, tu as touché à ce qu'il y a de plus sacré. Tu as manqué de respect au schéma. Ce qu'il y a de plus sacré. Alors moi aussi, je vais toucher à ce qu'il y a de plus sacré. Je vais te boucher ton cœur. Te lapider.
Pourtant, je n'ai pas fait de la vera.
D'accord? Ben oui. Spirituellement, oui.
Tu vas me boucher mon cœur et je n'ai pas fait de la vera.
Oui, bien sûr.
Donc tu peux avoir des gens très religieux qui ont le cœur bouché.
Mais bien sûr. À 1000%. Qui font le juste par routine. Faire les choses par routine, ça veut dire avoir le cœur bouché, c'est la même chose.
D'accord. Il faudrait mieux expliquer la relation entre les quatre peines et des vrais avéras.
Très simple.
Normalement. Là, je viens de comprendre avec Shabbat.
Oui. Après, pour le Shabbat, par exemple, normalement, une personne est lapidée. D'accord. Alors, on a expliqué que là, on va pas la lapider physiquement, on parle spirituellement. Lapider, ça veut dire quoi? La lapidation, ça veut dire boucher le cœur comme une pierre. C'est ça la lapidation. D'accord. Oui.
C'est une punition, c'est une conséquence.
C'est une conséquence.
Ah, donc c'est pas
qu'une personne, lorsqu'il touche à ce qu'il y a de plus sacré, il dit je préfère dormir que faire le schéma. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas compliqué. Ce qui se passe, c'est qu'il a touché au Yud, à ce qu'il y a de plus sacré, la Emouna, le schéma, tout le monde connaît le schéma. Il a touché à la mitzvah la plus importante. Donc puisque la Shalem est la plus importante, au Yud, Dieu dit, bon, bah dans ce cas-là, c'est quoi la punition pour ça? Ce qu'il a. C'est quoi ce qu'il a? C'est qu'on va te boucher ton cœur. C'est la pire des choses.
Oui, il ne pourra plus faire tes choix.
D'accord? Bah oui, c'est la... après on a un cercle vicieux, c'est la pire des choses.
Pour les enfants, pour les
parce
choix.
Que vous allez voir qu'après quelque part, hein, après quelque part, hein, alors attendez, deux secondes, on va y arriver. Vous verrez que les autres peines sont moins graves. Bah oui, parce que c'est comme dans un couple. D'accord? Tant qu'on s'accroche, c'est déjà pas mal. Parce que ça montre qu'il y a encore quelque chose. Mais quand on s'accroche plus et qu'on n'en a rien à faire et que chacun fait sa vie, là ça devient très très grave. Ça c'est clair qu'ils vont divorcer, c'est fini après. C'est là, là ça devient très grave. Quand il n'y a plus de dialogue, même s'il y a un dialogue et qu'on se bat, c'est pas grave. Pas grave, on peut se battre, bon on n'est pas d'accord. Bon, mais au moins on discute. Mais oui, au moins on discute. D'accord, au moins, bon, je vois ce que tu fais chez toi, mais si après je suis froid, j'en ai rien à faire de ce qui se passe chez l'autre, bon, fais ce que tu veux, vas-y, vas-y, fais ce que tu veux, c'est bon. Voilà, je te donne le cahier des charges, d'accord? Fais ce que tu veux, d'accord? Ça, c'est très grave. Ça, c'est le Yud. T'as touché à ce qu'il y a de plus sacré, on va t'enlever ce qu'il y a de plus sacré. On va t'enlever la chaleur que tu aurais pu avoir. Tant que tu as un corps de pierre.
C'est un nuage, à ce moment-là?
Bien sûr.
C'est pas que c'est du train nuage, ça.
C'est un gros nuage.
Le cœur, c'est mort, hein.
Râteau, un bus.
Ça, c'est le Yud. J'ai fait que le Yud, là, hein. Alors, si vous allez me laisser aller jusqu'à moi encore, on va faire les autres lettres.
Mais pourtant, on avait dit, excuse-moi.
Regarde. Yaakov.
Excuse-moi, on avait vu il y a trois chapitres que lorsque c'était une mise à positive, Shema.
Oui.
Que pour faire la Teshuva, il suffisait de refaire la mise.
Oui, je vois ta question.
Genre, si t'as bouché le cœur.
Encore une fois. Là, maintenant, on ne parle plus de punition.
Si tu fais pas Shema, on va pas te
laisser. On parle plus de punition du tout, là. J'ai compris la question. On ne parle plus du tout de punition, là. On parle pas de punition. On parle de blocage.
C'est des punitions.
Ah ben non. Parce que là, tu comprends, dans le chapitre 7, on parle d'un symptôme, d'un problème. C'est qu'une fois que nous t'apprends, on lui a expliqué qu'est-ce que c'est la teshuva, pourtant, il fait teshuva, à qui pour ou quand tu veux, et le lendemain, il refaute. Donc il y a un problème. Donc il y a un blocage. Donc s'il y a un blocage, il faut voir d'où vient ce blocage.
C'est Hachem qui donne le blocage. D'accord.
Oui, mais Hachem ne donne pas un blocage comme ça. Hachem donne un... Hachem... Non, comme il a dit, c'est la conséquence. C'est ma verrote. J'ai touché à ce qui est de plus sacré, j'ai touché au schéma. J'ai dit, bon, dans ce cas-là, moi aussi je vais toucher à ce qui est de plus sacré chez toi. Je vais te boucher le cœur, tu ne ressens plus rien. Ça y est, le cœur est bouché.
Tu vas à l'église.
D'accord.
Pour mettre un schéma ou plusieurs, c'est changement là.
Faut t'ouvrir le
cœur. Par rapport au cœur bouché, non.
Mais va-t-elle, c'est
bien. D'accord. Mais par rapport après la punition, c'est autre chose.
Si tu vas à l'église, c'est bon.
Non, mais va-t-elle, c'est là qui ne fait pas du tout.
Il cherche, lui. Bon. Alors, on continue. Ensuite, on a une autre lettre.
Va-t-elle, c'est intentionnel.
Ou de filine.
Mais va-t-elle, c'est intentionnel.
Mais va-t-elle, c'est intentionnel, ouais.
C'est pas quand il y aura une fois.
Alors, maintenant, attention. Et c'est là que ça complique. Ça veut dire quoi, mais va-t-elle créer le schéma? Ça veut dire quoi, mais va-t-elle créer le schéma? Ça veut pas dire forcément ne pas lire le schéma. Ça veut dire ne pas accorder assez d'importance au schéma.
Le Kabbalah, tu veux dire, ou
d'importance? Bien sûr. Selon le sot, c'est ça. Donc vous comprenez qu'on est cuit.
Ouais.
La clé, elle est rôtie.
Enfin, toi, je sais pas, mais...
On est rôti, ouais. Ne pas accorder assez, bah assez, c'est subjectif, assez.
Oui, il n'y a pas de limite. Hein.
Mais je sais qu'il y a certaines synagogues, par exemple, à Pavé, j'étais frappé la fois où j'ai été. Ils font la tefila assez rapidement. Oui, j'étais frappé.
Ah ouais, c'est normal.
Parce que c'est pas comme chez nous. Ils font la tefila assez rapidement et arriver au schéma...
Le schéma, il met 40 minutes.
Bon, alors là, vraiment, tu sens qu'il y a... Vraiment, il y a un temps d'arrêt, doucement, et l'amida pareil.
La question est, est-ce qu'on s'arrête parce qu'il faut s'arrêter, ou parce qu'on veut s'arrêter?
Non, ça c'est mauvaise foi.
Non, je pose la question.
Non, ils font ça parce que je pense qu'ils ont compris que le schéma prend une manière particulière, et qu'ils disent chaque mot, pas bon, etc. Je pense que c'est ça.
D'accord.
Non, c'est vrai, c'est choquant lorsqu'on fait le schéma plus vitesse.
Dans la chassidoute, on explique que c'est un travail qui doit être personnel.
Je ne veux pas parce qu'après les autres ils continuent.
C'est personnel.
Bah, tu finis le schéma,
c'est pas grave. Prends ton temps. Prends ton temps. Fais pas attention aux autres. Pas de problème. Pas de problème. Tant que t'as fait ta tefila, tant que t'as commencé. C'est quoi prier Béminyan?
Ah, mais vous êtes neuf et toi t'es dans ta Amida.
C'est commencer avec le Minyan. Si j'ai commencé avec le Minyan et qu'après pour faire une meilleure tefila j'ai pris mon temps, c'est considéré comme si je priais en Minyan.
Si je prends mon temps sur le schéma. Je démarre pas ma tefila avec le minyan.
Quand je dis commencer, c'est commencer Hodou, pas commencer la mida.
Ah, excuse-moi.
Oui. Commencer. Si après j'ai pris mon temps et que ça m'a permis de faire une meilleure tefila, il n'y a pas de problème, c'est encore mieux. Il n'y a aucun problème. Donc je répète. On reprend la structure. Allez messieurs, vous allez me laisser jusqu'au bout. Donc on a dit, on a le premier Yud. C'est quoi le premier Yud? Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, ça correspond à la lapidation. C'est quoi le Yud? Est-ce qu'il y a de plus sacré? Est-ce qu'il y a de plus fin? La petite idée. D'accord? Ça correspond à la Emouna. Ce qui est de plus fort chez l'homme. Quand une personne n'accorde pas cette importance au schéma, il a touché à ce Yud. C'est quoi la punition? La lapidation. C'est quoi la lapidation? La lapidation, c'est boucher le cœur. C'est ce qu'il y a de plus grave.
On parle de quel schéma? De matin du soir? On parle pas de la mita, là.
On parle du schéma, en général. Ensuite, bon, laissez-moi aller jusqu'au bout après toutes les questions, sinon on va pas s'en sortir. Utfilin, veot he. D'accord? Oui, je peux. Non, mais d'abord, je vais finir les quatre choses, après toutes les questions. Sinon, on finira pas. Utfilin, veot he. Les tfilin, ça touche le he. Quel rapport entre les tfilin et le he? C'est très simple. D'accord?
Très simple.
Dans les tfilin, on a quatre cavités. D'accord? Quatre cavités. Les tfilin, on a quatre cavités. Ces quatre cavités correspondent à quoi? Ces quatre cavités correspondent à Arba Morin. Pardon. À quatre parties qu'il y a dans le cerveau. D'accord? Alors, on sait bien qu'il y a trois parties principales. Il y a aussi une quatrième partie qui est à l'arrière ici. Quatre parties. Et donc, le tfilin, ça correspond à quoi? C'est quoi le but des tfilin? Est-ce que vous savez que quand on met les tfilin, il y a une kavana qu'on doit avoir? La kavana qu'on doit avoir quand on met les tfilin, c'est qu'on doit se rappeler qu'il faut asservir son esprit et son cœur à Kadosh Baruch Hu. C'est une des rares kavanot qui est écrite dans Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, en général, on ne nous donne pas de kavana. À quoi je dois penser quand je fais la mitzvah? Là, il est écrit parce que c'est très important, c'est primordial, c'est obligé de réfléchir à avoir cette kavana. Donc, le tfilin, ça symbolise quoi? Le développement, le hé. Ah, c'est plus de la émouna, là. Quand je mets les tefillines, on te demande de développer. Développer dans ta tête. Et dans tes bras. Qui correspond donc au développement. Développer. Ça, c'est le hé. Donc, une personne qui met vatel tefillines, ça veut dire quoi? Une personne qui met vatel tefillines, ça veut dire une personne qui ne prend pas le temps de voir comment Akadosh Baruch Hu descend dans sa vie de tous les jours. Parce que c'est ça, les tefillines. Tefillines, c'est synonyme de développement. Donc, dans le sens simple, ne pas mettre les tefillines, ça veut dire ne pas mettre les tefillines tout court, Dieu préserve. Mais dans le sens figuré, ne pas mettre les tefillines, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ne pas essayer de faire descendre sa émouna dans la vie de tous les jours. Les tefillines, on a dit, c'est synonyme de développement. C'est quoi la punition pour le hé? On avait expliqué, vous rappelez? Tréfa. C'est quoi tréfa? C'est quoi tréfa?
Triangulation.
D'accord. Non. C'est quoi tréfa? Tréfa, c'est quoi? D'accord. Tréfa. Tréfa, c'est le feu. C'est quoi le feu? D'accord? Qu'est-ce qu'on connaît dans le feu? Le feu, ça symbolise le désir. C'est quoi la punition de tréfa? C'est pas que la personne a le cœur qui est bouché comme la pierre. Non. C'est pas ça, c'est la punition. C'est une autre punition. C'est que la personne commence à être attirée par des mauvaises choses. C'est-à-dire qu'il a un feu qui brûle, donc c'est déjà mieux, là. Il a un feu qui brûle, mais il brûle du mauvais sens. D'accord? Ça, c'est une punition pour quoi? Je répète, c'est une punition pour le hé. C'est que quand j'ai pas utilisé mon cerveau pour développer ma émouna dans la vie de tous les jours, c'est quoi la punition, enfin la conséquence entre guillemets de ça, c'est quoi? C'est tréfa, c'est le feu. C'est quoi le feu? Ça veut dire que progressivement, je ne suis plus attiré vers la kdoucha, mon désir, mon feu, commence à être vers des choses qui sont pas forcément positives, ou bien des choses qui sont pas forcément liées à l'Akdoucha. Je vais aimer d'autres choses. Je vais aimer des voitures, en informatique, ou ce que tu veux.
C'est moins grave. Même.
D'accord? Oui. Tu as raison que c'est moins grave.
Alors,
c'est moins grave parce qu'il y a toujours un moteur.
Ou les vêtements.
Et les tfilines, alors.
D'accord? Tu as raison.
Ouais, les tfilines, alors. C'est quoi?
Alors, est-ce que je l'explique? Les tfilines, c'est une ligne de développement. Donc, soit la personne n'a pas mis les tefillines, mais même le seul explique qui dit non, c'est pas seulement de ne pas mettre les tefillines. C'est même ne pas faire, c'est d'une manière générale le concept de ne pas vouloir faire descendre les moulins dans la vie de tous les jours. Après, c'est subjectif ça aussi. Ça veut dire quoi faire descendre les moulins dans la vie de tous les jours? Qui peut dire qui a réussi à faire? Ça, c'est le deuxième point. C'est le sod. Attention, le sod, c'est Arizal, c'est du costaud. Hein, c'est des choses que les tzadikim réfléchissent. Parce qu'encore une fois, c'est subjectif. Chacun à son niveau peut se reprocher. Chacun à son niveau peut se reprocher de ne pas accorder assez d'importance au schéma, de ne pas accorder assez d'importance à sa émouna, et de ne pas faire descendre assez sa émouna dans la vie de tous les jours. Bon, c'est pas fini. Troisième. C'est quoi le troisième? Continue ou pas?
Hein? Ben oui, bien sûr.
Tu voulais continuer
à aller
moi j'ai ma dose là.
On a pris des claques déjà là.
Non, je veux bien comprendre.
Alors, titit. C'est quoi titit? D'accord? Titit. c'est synonyme de, alors, titit, c'est be'ot vav. Le titit touche la lettre vav. Pourquoi? Quel rapport entre le titit et la lettre vav? Du nom d'Akadosh Baruch Hu, yudke et vavke. Très simple. Titit, en hébreu, veut dire les franges, mais veut dire aussi metit minacharakim, ça veut dire, c'est synonyme de dévoilement. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous regarde parmi les fentes, c'est écrit metit minacharakim. Donc, titit est synonyme de dévoilement, de développement dans le, vous rappelez ce que c'est quoi le vav? Le vav, c'est quand le cerveau, c'est quand du cerveau, ça va descendre vers le cœur. D'accord? C'est quoi titit? C'est quoi titit? C'est quand tu as une personne qui a la emouna, qui a le yud, qui a développé la emouna dans sa tête, d'accord? Mais qui a du mal à faire descendre la emouna dans son comportement de la vie, enfin, je veux dire, dans ses sentiments de la vie de tous les jours. C'est déjà un troisième niveau. Bon, c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'une personne quand même qui a réfléchi, d'accord, qui a développé dans sa tête, mais qui a du mal à faire descendre, alors encore une fois c'est subjectif, qui a du mal à faire descendre dans le cœur.
Pas dans les actes. Hein.
D'accord. Ça c'est le vav. Le vav, on avait expliqué, c'est synonyme des midot. Après je résumerai à la fin du cours. Le vav, c'est synonyme des midot. C'est quand ça descend du cerveau vers le cœur. Le vav, c'est synonyme de midot. C'est l'équivalent des titit, qui sont également synonymes de développement. C'est quoi la punition? C'est quoi la punition du vav? On avait expliqué c'est quoi? C'est hereg. C'est quoi hereg?
C'est le glaive.
C'est quoi hereg? Ça veut dire quoi hereg? C'est quoi la tête? Couper la tête. Ça veut dire couper la tête? Couper la tête du cœur.
C'est perdre la tête.
Bon, c'est pas évident, parce que tu le dis. Hein.
Bah, bien sûr.
Ça pourrait t'arracher le cœur.
D'accord. Mais non. C'est ça.
La tête du cœur.
Couper la tête du cœur. On te dit, écoute, tu sais quoi?
Séparer la tête.
D'accord. Ah, oui, toi, tu as décidé de ne pas vouloir faire descendre ce que tu as dans ta tête.
Du cœur.
Séparer la tête du cœur.
Non. Séparer la tête. C'est quoi? On coupe la tête. C'est vrai, on coupe la tête. C'est-à-dire que la tête est toujours là. Le cœur est toujours là. Mais il n'y a plus de relation entre les deux. Ça, c'est une personne qui...
Tu peux arracher le cœur.
Une personne. Ah non. Parce que le cœur est toujours bon.
Mais qu'est-ce qu'il a fait?
Mais la tête est toujours bonne. Mais...
Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre pour vérifier ça?
Ce qu'il a fait, c'est très simple. C'est qu'il ne veut pas faire descendre sa compréhension dans le cœur. Il veut pas. Il veut
non. Il raisonne, mais
il veut
pas.
Il veut pas prendre le temps pour ça. Ça m'intéresse pas. Il veut que ce soit théorique. Ouais. Moi, j'ai un judaïsme théorique. Moi, la pratique, enfin, les sentiments, ça m'intéresse pas. Je parle pas d'amour et de crainte de Dieu. Tu me dis la Gemara, ça m'intéresse. On raconte pas tes histoires. Parce que Dieu dit, ok, pas de problème. Dans ce cas, on va te couper la tête. Sans couper la tête, ça veut dire que même si tu voudras, tu n'arriveras plus après à avoir des sentiments.
Évidemment, tu pêches par la tête, donc on te coupe la tête.
Non.
Bah si, quand même. Non. Parce que si t'arrives pas à faire descendre le concept, dans le cœur...
J'ai compris, mais le concept de couper la tête, ça veut dire tu ne veux pas faire descendre vers le cœur, donc on va couper les ponts, comme ça, si tu voudras, tu ne pourras plus.
Et une vraie avéra qui mérite ça, c'est quoi, par exemple?
Non, c'est pas pire que le premier.
Une vraie
c'est pas pire que le premier, parce que dans le premier, excuse-moi du terme, on a défoncé le cœur.
Tout ce qu'on dit, c'est comme si.
C'est quoi la mort?
Moi, je veux...
Alors, je reprends.
C'est quoi une avéra qui mérite Erek?
Une vraie avéra qui mérite Erek? Je crois que c'est Avodazara. Je ne comprends pas. Alors, vous voyez qu'on va en décrescendo là, pour l'instant.
Ouais, parce pas dans la souffrance. Hein.
Ah si, attention, non, mais je parle pas de la souffrance. Moi, je parle spirituellement.
Normalement, plus tu fais grave, plus tu dois souffrir.
D'accord.
Non.
C'est quoi le plus grave? C'est quoi? Le plus grave, c'est le défoncer le cœur. Si tu défonces le cœur, il n'y a plus rien. La machine, elle est cassée, elle ne tombe plus. Après, le deuxième, on a dit, bon, le cœur est toujours là, mais il est dirigé du mauvais sens. Après, le troisième, on a dit, c'est quoi? Le cœur, il est sain, la tête est saine, mais... Il n'y a plus de communication entre les deux.
Mais c'est encore.
Non, d'accord. Là, ah ben non.
C'est pire que le deuxième. Je crois pas.
Non, c'est pas pire parce que la communication, on peut la recréer.
C'est pas le dernier.
Tu comprends?
C'est pas
oui.
C'est pas le plus grave.
C'est comme dans une voiture. Quand tu viens, tu fais du sabotage. Mais t'as cassé. Mais si toutes les pièces sont là, elles sont intactes. Et que bon, sauf qu'il y a eu un problème, qu'elles sont détachées. Bon, ben on peut rattacher. C'est pas la même chose. D'accord. Bon, je referai après un.
Mais toutes les punitions conduisent à la mort, donc c'est ça le sens.
Oui, mais là on parle de mort spirituelle. Ça veut dire. Un effet spirituel. Encore une fois, le symbole, c'est la coupure qu'il y a entre la personne et Dieu. Vous voyez, là on vient de parler de trois types de coupures différents. Le premier, c'est que j'ai plus de cœur. Le deuxième, c'est que j'ai un cœur, mais il est dirigé du mauvais sens. Le troisième, c'est que j'ai un cœur, mais il n'y a plus de relation avec le cerveau. Et le quatrième, c'est quoi le quatrième? Le quatrième, c'est Tfila. C'est quoi Tfila? Celui qui n'accorde pas assez d'importance à Tfila. C'est quoi Tfila? Tfila, c'est l'amida. Alors, quel rapport avec la lettre He? C'est très simple. Tout à l'heure, j'ai expliqué que quoi?
Tu l'avais pas vu avant.
Alors. C'est quoi la tfila? D'accord? Tfila, c'est synonyme, exactement, d'attachement, de concrétisation. Vous vous rappelez tout à l'heure qu'est-ce que je vous ai dit? Yud ke vav ke. C'est quoi le yud? C'est l'idée. Le he, c'est le développement dans la tête. Le vav, c'est le développement sentimental. Et le he, c'est la concrétisation. C'est quoi la tfila? Tfila, ça vient du mot attachement. C'est la concrétisation. Quand je concrétise ça, j'essaye de cimenter tout ça. Une personne qui n'accorde pas assez d'importance à la tfila, il vient le toucher, il
ça
vient
de... Pourquoi ils n'ont pas mis les mises de vote?
Oui,
parce que là, on prend les exemples de la vie de tous les jours. Là.
Ah oui, justement.
On prend les exemples de la vie de tous les jours, des choses qui nous concernent tous les jours. Qui ne fait pas la tfila, la mida, c'est des choses...
Ouais,
de...
mais les mises de vote, c'est aussi important. Pas,
D'accord. Alors, donc, tu as raison, on peut donner d'autres mises de vote, ce qu'il va dire après.
Ah, d'accord.
Alors, qu'est-ce qu'on avait expliqué pour le dernier hé? Le dernier hé, c'est l'équivalent de Henek. Vous vous rappelez, c'est quoi Henek? D'accord. C'est quoi Henek? Henek, c'est la strangulation. Quel rapport avec la strangulation? C'est quoi la strangulation? Qu'est-ce qu'on fait quand on a la strangulation?
On prive d'air.
On le prive d'air. Donc qu'est-ce qui se passe?
On étouffe.
Ça veut dire... Ah, attention, là c'est différent. Ça en vérité, c'est la moins grave quand on réfléchit. Parce que la tête est là, elle est même en bonne santé. Le cœur est là. La relation entre le cœur veut toujours faire des bonnes choses, il veut toujours respirer, d'accord? La relation entre le cœur et la tête est toujours là, mais on empêche d'envoyer l'air. Ça veut dire quoi? C'est exactement comme la dernière catégorie. C'est-à-dire que l'idée, l'almouna est là, le développement logique est là, le développement sentimental est là, mais on n'a pas envie de concrétiser. Ça veut dire qu'on n'a pas envie de concrétiser. Ça veut dire qu'on n'a pas envie de faire passer l'oxygène pour faire passer dans tout le corps.
On passe à l'acte. On passe
d'accord
à l'acte.
Et là, ça pose problème. Mais vous comprenez que ça, c'est le moins grave.
Oui, c'est un manque de combustible, quoi. C'est carburant.
Ah oui, c'est-à-dire que le corps, et c'est pour ça qu'une personne, c'est pour ça qu'une personne comme ça, il peut récupérer très rapidement. Dès qu'il récupère de l'air, il reprend. Après, il reprend. Bah, c'est très simple. Parce que, on n'a rien cassé. Oui. On n'a rien cassé, on n'a rien coupé, on n'a rien mal dirigé, tout est là. Sauf que, il n'y a pas d'oxygène. Bon, il n'y a pas d'oxygène. Ça veut dire qu'il n'y a pas de concrétisation. L'oxygène, ça représente quoi? L'oxygène, c'est la touche finale. Une fois que tout est prêt, maintenant, il faut l'oxygène. C'est la touche finale. C'est quoi la concrétisation? C'est la touche finale.
C'est la volonté.
D'accord?
C'est l'insufflement.
Et maintenant, c'est pas la volonté. L'oxygène, spirituellement, c'est quoi la tfila?
C'est le comburant de l'expérience, quoi.
Oui. C'est quoi la tfila? C'est la concrétisation. Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que dans l'expérience de la vie de tous les jours, tout d'abord, on a des gens qui ont des problèmes de émouna. D'accord? Après, on a des gens qui n'ont pas de problèmes d'émouna, mais qui ont des problèmes de développement de l'émouna. Après, on a des gens qui développent parfaitement l'émouna, mais qui ont des problèmes de développement sentimental de l'émouna. D'accord? Après, on a des gens qui ont développé sentimentalement, logiquement, qui ont l'émouna, qui ont tout ce qu'il faut, mais dès qu'on passe à l'acte, dès qu'on a passé à la caisse, ça passe pas. Il a passé la quatrième, elle passe pas. Il a du mal à passer. Tu sais, maintenant, t'as compris, t'as senti et tout. Même face à l'acte.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on a envie de faire une mitzvah et au dernier moment...
Voilà. On a du mal à concrétiser ce qu'on pense et ce qu'on ressent. D'accord? On a du mal ou on n'a pas envie. Attention, je parle pas d'avoir du mal. C'est plutôt de ne pas avoir envie. Je peux pas. Ça me prend la tête. Ça, je lâche au dernier moment.
On n'a plus les sentiments.
D'accord? Si. Je veux. J'ai compris. D'accord? J'ai la émouna. D'accord? C'est au fond de moi, je veux. J'ai compris qu'il faut le faire et je sens qu'il faut le faire. Mais je le fais pas.
Ouais. C'est l'action alors.
D'accord. C'est l'action, c'est le dernier hé. C'est comme la tfila.
C'est la mise en œuvre.
D'accord. C'est comme la tfila. C'est quoi la tfila? La mida. C'est le moment le plus fort de la. C'est le moment le plus fort de. C'est le moment où dans lequel maintenant l'oxygène doit tourner. L'oxygène ne passe pas. Ça y est, ça passe pas. C'est quoi la punition? C'est très simple. La punition, c'est chenek. Comme on l'a expliqué, c'est la strangulation. C'est-à-dire tout le corps est là, tout est là. Mais à Kadosh Baruch Hu, il nous donne plus l'oxygène. D'accord. Mais là, par contre, ça c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que quand tu vas demander à Kadosh Baruch Hu, tu vas pas lui demander redonne-moi un cœur. C'est les termes qui sont écrits, c'est les prophètes. Ça. Redonne-moi un cœur. Non. Donne-moi de l'oxygène. Laisse-moi respirer. D'accord. Permets à ma neshama de parler avec toi. C'est très rapide. D'accord. Avec ça, l'Admor Hazaken, je vais juste terminer dans les mots. Après, je récapitule tout de suite. Alors, j'attends pas qu'on se rappelle de tout ça, parce que moi-même, je sais pas si dans une semaine, je me rappellerai tout ça. Enfin, je pense que oui, mais j'attends pas qu'on se rappelle de tout ça. C'est simplement pour nous montrer qu'on a du travail à faire, qu'on a beaucoup de boulot à faire. Et que même quand on croit qu'on est parfait, on est très très loin d'être parfait. Ça, c'est des choses que les tzadikim se disent. C'est subjectif. Tout ce que je viens de dire ici, c'est subjectif.
Et quel rapport avec la colère, la tzedaka et...
C'est pareil, c'est la même chose. C'est comment il a fait? Il veut expliquer à la personne que son ego a un problème, qu'il y a une rupture entre lui et Dieu. Donc on a commencé. Tout d'abord, on a dit, peut-être t'as fait une grande avéra. Numéro 1. Numéro 2, peut-être t'as fait plusieurs petites avérantes qui ont formé un gros nuage. D'accord? Donc une rupture aussi grande qu'une avéra. Numéro 2. Numéro 3. Peut-être que tu as fait un peu de petite avérote et que dans cette petite avérote, tu avais une avéra qui avait un effet, d'accord ? Un effet compressé aussi fort que si c'était une grande avéra. Encore un autre peut-être. D'accord ? Et un quatrième point qu'on a rajouté ici, c'est quoi ? C'est justement l'histoire des quatre morts. C'est que peut-être que carrément, tu crois que t'es parfait, mais comme subjectivement, t'as des problèmes sur les quatre points qu'on va dire, qui sont des nuances, qui sont très très fines, que je vais répéter tout de suite. Donc, il y a un problème dans ta communication avec le Kadosh Baruch Hu. Donc, tu dois faire tes chouvas. Donc, tu ne dois pas te croire parfait. Le grand problème, c'est qu'on se croit parfait.
On parle pas du châtenais.
Quand on se croit parfait, non, elle parle pas du châtenais. Mais le châtenais aussi, c'est un problème. Le grand problème, c'est qu'on se croit parfait. J'attends plus rien de personne. D'accord ? Et subjectivement, c'est... On peut arriver très facilement à ça. Alors, je finis dans les mots. Alors, ça on l'a dit. Verrouler, etc. Ou miser, et de ça, Yuchal Amaskil, Lilmod, Lishar, Avonot, Vachataim. Et de là, celui qui est intelligent pourra développer pour les autres fautes. Etc. Trois petits points, c'est des points à la figure. D'accord. Etc. Et attention, les quatre derniers mots, elle va mettre une patate, excusez-moi du terme. Ou Bitul Torah, Keneket Kulam. Ça veut dire, le fait, même si disons une personne, n'a rien à se reprocher sur tout ce qu'on a dit. Qui est impossible pour le commun des mortels. Hein. Impossible. Mais disons, qui pense qu'il est comme ça ? Bitul Torah, Keneket Kulam. Il n'y a pas une seconde qu'il aurait pu étudier la Torah et qu'il n'a pas étudié ?
C'est impossible.
Ouais, c'est sûr.
D'accord ? Chaque seconde qu'il aurait pu étudier et qu'il n'a pas étudié, c'est écrit que la Gemara a dit que Bitul Torah, c'est aussi grave que toute la vérité qu'on a dit.
Voilà, seulement pour la Gemara ?
Non.
Ah bon ?
Alors attention, le but c'est pas la corde. Hein. Le but c'est pas la corde. Ici.
La corde plus de flagelle.
Le but c'est pas la corde, on va pas arriver à la corde ici. Ce qu'on veut arriver, c'est nous casser un petit peu et comprendre qu'on est loin du compte. Donc, quand on comprend qu'on est loin du compte, d'accord ? Là après, non mais attendez, là on peut faire teshuva.
On va pouvoir nous relever après.
Pourquoi on arrive à Yom Kippour, d'accord ? On fait les beaux, on arrive à Yom Kippour. Quand on vit, on fait Al-Khet, Teshuva, etc. On n'est pas concerné avec, on n'a rien à faire. On croit qu'on est dans le coup déjà. Dis oui, bon, c'est une fois par an, faut bien faire quand même, on sait jamais, peut-être j'ai fait une avéra par-ci par-là, c'est pas tellement grave, ça va, c'est déjà pas mal ce que je fais, etc. Non, on prend des claques, il dit attends, on va pas t'embêter, mais t'es très loin. D'accord ? Il va pas le refaire dans la suite, hein. Ne t'inquiétez pas, après dans la suite, il va positiver un peu. Mais c'est important.
Il peut pas tuer un mort.
Hein. Il peut pas tuer un mort.
Quelle différence entre être à 1 million de kilomètres et être à 300 milliards de kilomètres ?
C'est très simple, c'est qu'on a expliqué que chaque fois qu'on se travaille sur un détail, on enlève un nuage. Tu comprends ? Donc si t'as 10 millions de nuages, et ben, quand on en enlevait un, t'as enlevé un des 10 millions.
Ouais, mais bon.
Mais chaque fois que tu travailles sur quelque chose, tu enlèves un nuage. Chaque fois. Parce que c'est valable pour les mitzvot aussi. Il y a des mitzvot qui nous paraissent insignifiantes.
Là on parle pas
du bonheur. Je suis pas en train de parler du bonheur.
Non, on est pas là.
Là, je... Non, ça n'a rien à voir. C'est possible que cette personne est heureuse dans la vie tous les jours. On parle pas du tout du bonheur. On parle de la relation qu'il y a entre un juif et Dieu.
On peut être heureuse.
D'accord ? La communication qu'il y a, on sent que ça passe pas.
Un enveloppe peut être heureux, c'est ça ?
Bien sûr, on peut être heureux. On parle pas du tout de ça, là. On parle de la communication qu'il y a entre un juif et Dieu. Il n'arrive pas à communiquer avec quelqu'un. Donc je résume ce qu'on a expliqué aujourd'hui. D'accord ?
La fin ?
Oui.
Il
faut venir au chapitre 8 pour remonter le moral.
Que Bitul Torah, ça s'équivaut à tout, puisqu'il n'y a pas le roi du monde.
Tout le monde.
Mais on dit pas... Attends. On ne dit pas ça pour te casser à toi, on dit ça pour casser ton ego.
Oui, j'entends bien, mais ça revient au même.
Ah, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Parce que c'est mon ego qui me dit c'est pas si grave si je fais pas tes chouvas,
voilà,
c'est pas si grave si
je fais pas l'ego là, il parle pas de ton corps. Il parle de la personne, il parle pas de ton ego là, il parle de la personne.
Pas moi c'est ma main. Hein.
Il parle de la personne, pas de l'ego là.
Oui mais il veut supprimer l'ego de la personne. D'accord ? Donc, je répète. D'accord ? Enfin, où on voulait en arriver aujourd'hui ? Dans les cours précédents, on a développé le concept des nuages.
À la fin.
Comment dans chaque avéra, on rajoute des nuages, et des petits nuages, et un nuage qui peut nous paraître petit, mais avec plusieurs nuages en même temps, ça peut faire un gros nuage, ou bien un petit nuage peut avoir autant de valeur, enfin de d'effets néfastes qu'un gros nuage, mais là aujourd'hui on a rajouté encore un point. D'accord? On a rajouté un point, on a parlé des quatre morts. Alors on va essayer de résumer ensemble, mais c'est pas moi qui vais le dire, c'est vous qui allez le dire. Donc on a quatre lettres dans le tétragramme.
Deux points.
D'accord? Yud, Ke, Vav, Ke. On est d'accord? On va commencer par le Yud.
Le point, c'est la
d'accord Yuna. Alors le Yud, ça correspond à quoi dans la structure humaine?
À la Emouna.
Au flash. D'accord? Très bien. Donc le Yud, c'est le Yud, c'est on va faire dans l'ordre. D'abord on a, dans la structure humaine, d'abord on a le flash, après on a le développement
en long et en large.
Développement logique. D'accord? Après on a
émotionnel.
Ça descend vers les sentiments. Mmh. Et après on a la concrétisation dans les détails. Yud, Ke, Vav, Ke. Très bien. Maintenant on va parler des quatre avérotes. Dans les quatre avérotes, on va expliquer comment les quatre avérotes correspondent au Yud, Ke, Vav, Ke. On va commencer par la première. Le Yud correspond à quoi?
Emouna.
Le Yud correspond à la Emouna. Donc comment on retrouve ça? C'est-à-dire celui qui n'accorde pas assez d'importance à sa Emouna. Donc à son schéma par exemple, mais pas qu'au schéma. Ça veut dire qu'il n'accorde pas assez d'importance, c'est le concept, n'accorde pas assez d'importance à sa Emouna. Ça c'est le Yud. D'accord? Le Hé, on a expliqué, ça correspond
et
à quoi?
Punition.
Attendez, la punition après. D'abord je parle. D'accord? Après le Hé, c'est quoi?
Celui qui ne veut pas mettre...
Le Hé, c'est les Tfilin. C'est quoi les Tfilin?
Le
Tfilin, c'est le développement intellectuel.
Ouais.
Puisqu'on sait bien que même bien qu'on met les Tfilin dans le bras, les Tfilin le plus important, celui le plus important, c'est celui de la tête. Donc le développement intellectuel. Celui qui ne veut pas mettre les Tfilin, ça veut pas dire qu'il ne veut pas les Tfilin physiquement. Peut-être ça aussi, mais ça veut dire qu'il ne veut pas développer sa Emouna intellectuellement. Il préfère que ça reste au fond de lui et c'est tout.
Actuellement, il reste
d'accord
bête.
Intellectuellement, tant que Bouya, il reste bête. C'est, il veut pas se prendre la tête. Il ne veut pas se prendre la tête. Ça, c'est le Hé. D'accord? Ensuite, on a le Vav. C'est quoi le Vav? Le Vav, on a expliqué, ça correspond au Tzitzit. C'est quoi les Tzitzit? Tzitzit, on a expliqué, ça vient du mot Metzit. Ça veut dire le dévoilement. Dévoilement dans les sentiments. D'accord? Ça correspond à quoi spirituellement? Ça correspond, on a expliqué, c'est quoi le Tzitzit? Ça veut dire une personne qui ne veut pas faire descendre dans ses franges. Ça veut dire pas faire descendre dans ses franges. Ça veut dire qu'il ne veut pas faire descendre, on parle d'une personne ici qui a la Emouna, qui a développé sa Emouna, qui l'a développée intellectuellement, mais qui ne veut pas la faire descendre
sur le plan,
sentimental. Ça c'est le Vav. Le Hé c'est quoi? On a expliqué. Le Hé ça correspond à quoi? Ça correspond à la Tfila. C'est quoi la Tfila? Ça correspond au dernier Hé qui correspond à la concrétisation. C'est ça la Tfila. La Tfila c'est le moment dans lequel on concrétise tout ce qu'on a pu réfléchir. C'est le moment dans lequel où ça passe, où ça casse. Si c'est pas passé, c'est qu'il y a un problème depuis le début. Parce qu'après, on redescend déjà. Après l'Amida, la Tfila, c'est l'Amida. Après l'Amida, on redescend déjà. Si, au moment le plus fort, tu sens qu'il n'y a rien, ça veut dire que tu n'es pas monté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concrétisation. Ça, c'est les quatre, ça, c'est les quatre phénomènes possibles. Maintenant, les quatre punitions, c'est quoi? On a expliqué.
Premier.
Yud est égal à la Emouna. C'est quoi la punition? C'est Skila. C'est quoi Skila? C'est quoi la lapidation?
C'est les pierres.
Lapidation, c'est-à-dire que Dieu bouche le cœur comme une pierre. Il n'y a plus de cœur. Il défonce le cœur. C'est fini. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Voilà. Il n'y a plus de cœur.
Mais c'est un chinois.
D'accord? Ça, c'est la pire des choses.
Il travaille.
Il n'y a pas de cœur. Tu passes au scanner, il n'y a plus de cœur. Il y a une pierre. D'accord? C'est fini. Il n'y a plus de cœur. Ça, c'est le Yud. Ça, c'est la pire des punitions. Parce que pourquoi c'est la pire des punitions? Parce que c'est le plus grave, ça. On a affaire à une personne ici qui ne veut même pas faire appel à sa Emouna. Ça, c'est le plus grave. Ça, c'est le Yud. Ensuite, on avait expliqué c'est quoi le Hé. D'accord? Non, c'est pas Réchaim, parce que c'est subjectif. Dans la vie de tous les jours, on peut retrouver ça dans notre vie de tous les jours. Ne pas assez développer sa Emouna, ne pas assez la faire descendre, ne pas assez... C'est...
Si tu as une petite Emouna que tu développes beaucoup dans la pratique.
Il n'y a pas de petite Emouna. Ça n'existe pas. D'accord. C'est très subjectif. Mais bon, c'est ce qu'on explique dans le Sod, pour nous montrer qu'on a beaucoup, beaucoup... C'est ce que les Tzadikim se disent. Donc nous aussi, on peut se le dire subjectivement. Ensuite, on avait expliqué. C'est quoi le Hé? Où on en était? Donc le Hé, ça correspond à quoi? Le Hé, on avait expliqué, ça correspond à
développement intellectuel.
Et donc, c'était quoi l'avéra qui correspondait à ça? C'était quoi l'avéra qui correspondait à ça? C'était les téphilines. Donc, c'était quoi le problème, le concept du problème? C'était le fait de ne pas vouloir développer
intellectuellement
sa Emouna. C'est quoi la punition? Sréfa. C'est quoi Sréfa? Brûler. Le feu. C'est quoi le problème du feu?
Le feu, c'est une envie qui est
mal... Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, tu dis, bon, tu sais quoi? On touche pas à ton cœur. Mais par contre, tu voudras des choses négatives. Ça, c'est la punition.
Peut-être agréable.
D'accord? En tout cas, qui n'ont rien à voir avec ce que tu devrais vouloir. Ça, c'est le Hé. Ensuite, après, on avait le Vav. Le vav correspondait au développement sentimental. La mitzvah qui correspondait à ça, c'était les tzitzit. D'accord? Le problème qu'on a, le problème qu'on a développé, c'est quoi? C'est le fait qu'une personne a la emouna, il a le développement intellectuel, mais il ne veut pas passer au sentiment.
On lui coupe la tête.
C'est quoi la punition? On lui coupe la tête! Ça veut dire, le cœur est là, il est en bonne santé. La tête est là, elle est en bonne santé. Il n'y a plus de communication. C'est-à-dire que la tête ne dit plus rien au cœur. Ça veut dire que même après, quand il voudra, eh ben, ce qu'il pensera ne fera rien du tout à son cœur. Mais le cœur est toujours là. Il est toujours en bonne santé. Mais il n'y a plus de communication. Donc là, c'est déjà plus facile à réparer. Et enfin, le dernier, c'est le dernier hé. C'est quoi le dernier hé? Le dernier hé, on l'a dit, c'est la concrétisation. La mitzvah qui correspondait à ça, c'était la tefila. C'est-à-dire la concrétisation des mitzvahs qu'on fait tous les jours. Et c'est quoi la punition? C'est la strangulation. C'est quoi la strangulation? Ça veut dire qu'on le prive d'air. Tout est là. La tête est là, le cœur est là, la communication est là, tout est là, tout marche, tout est ok. C'est la touche finale qui manque. Il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air. Alors ça, c'est le moins grave en vérité. Parce que très rapidement, ça marche, la machine elle marche. Cette personne-là, si tu récupères à temps, tu lui ramènes de l'air, 100 minutes plus tard, c'est comme si qu'il n'a jamais rien eu. Il est en bonne santé, le gars il court. Pourquoi? Parce que tout est en bonne santé, tout est là. C'est le moins grave. D'accord? Ça correspond à quoi? Ça correspond à celui qui a fait toutes les trois étapes, mais qui a du mal à concrétiser. Donc vous comprenez que quand on vient à un cours maintenant et qu'on essaie de chercher sa emouna, la développer, essayer de ressentir, même si on a du mal à concrétiser, où il va en arriver à la Morazaken? Bon, tu as du mal à concrétiser. D'accord. C'est peut-être mort, mais c'est pas n'importe quelle mort. C'est une mort qui est sympa, celle-là. C'est-à-dire, c'est une mort que, bon, tu manques d'oxygène. Tu comprends? Quand les pompiers, ils arrivent, ils n'ont pas affaire à un cœur défoncé, ils n'ont pas affaire à une tête coupée, ils ont affaire à une personne qui manque d'oxygène. Donc c'est beaucoup plus facile à réparer. Voilà, c'est ça qu'on essaye de faire dans les cours.
C'est-à-dire, il y a un petit nuage, alors, dans le quatrième.
Il y a un nuage, non, il y a un nuage.
Il est minuscule dans le quatrième.
Non, il y a un nuage. Il y a un nuage, la personne a un problème. Mais ça veut dire que réparer ça, c'est beaucoup plus facile. D'accord? Et c'est là où il va arriver la Morazaken. Et c'est là où on arrivera à Bezrat Hashem, la semaine prochaine au chapitre 8. C'est là où il va en arriver. Il va en arriver, il veut te dire, écoute, essaye de supprimer le moins d'obstacles possible. D'accord? Le plus d'obstacles possible. Supprime le plus d'obstacles possible. D'accord? Si tu peux faire que le seul obstacle qui te reste, c'est la concrétisation, c'est déjà pas mal. Ton cœur, il est en bonne santé, tout est en bonne santé, il manque que la concrétisation. Et une personne comme ça, avec un bon psycho, on peut le réveiller. C'est à ça qu'on va arriver. C'est pour ça que c'est très important de venir à des cours, même quand on sent que le moteur n'a pas encore pris. C'est pas grave. Parce que si la emouna a pris, le développement intellectuel est là, le développement sentimental est là, la machine elle tourne. Ah, il n'y a pas d'oxygène, bon on va lui mettre l'oxygène. Mais c'est déjà plus facile, il y a une machine qui tourne. D'accord? Donc avec ça, l'Admor HaZaken nous a un peu donné des claques, un peu beaucoup même, il nous a tués, on peut le dire, il nous a montré qu'on a beaucoup de travail, mais quelque part c'est rassurant. C'est rassurant parce que ça nous montre qu'il y a une structure, et que quand on passe du temps à se construire, même si on ne passe pas à la concrétisation, il n'y a rien qui passe en l'air, il y a des gens qui pensent, d'accord? Aujourd'hui on est dans un monde dans lequel si tu ne fais pas du chiffre, tu ne vaux rien. D'accord? Mais il y a des gens qui pensent, ils disent oui, j'ai essayé, je ne fais pas de vite, va, j'ai rien fait. On dit non. T'as pas rien fait, t'as développé ta emouna, tu l'as développé intellectuellement, tu l'as développé sentimentalement, t'as un cœur, t'as un cerveau, t'as une communication, c'est déjà énorme. Tu manques d'oxygène, bon, alors maintenant on a compris ton problème, tu manques d'oxygène, c'est déjà un autre problème. Ça veut dire que c'est très important d'essayer, même si on réussit pas. Au premier coup, c'est pas grave, y a rien qui part en l'air. C'est pas parce qu'il y a pas de chiffres que j'ai rien fait. Et ça, c'est le point qu'on développera à Bezrat Hashem à partir du chapitre 8.
Parce qu'après, il faut donner les remèdes.
Eh ben oui. Ouais. Le remède, c'est ça. Tu comprends?
C'est la Torah, le remède.
Le remède, c'est ça.
C'est l'air.
C'est ce qu'on vient de dire ici. C'est le remède. Le remède, c'est qu'on te dit... C'est quoi le piège du Yetzara? Le Yetzara dit, ouais, t'es un naze. T'as essayé, t'as pas réussi. Laisse tomber.
Ouais.
Laisse tomber depuis le début.
Mort.
C'est une erreur. C'est une grave erreur. C'est pas parce que j'ai pas la quatrième étape que j'ai pas les trois étapes d'avant. C'est pas parce qu'il n'y a pas de chiffre, qu'il n'y a pas de résultat, que ça veut dire qu'il n'y a rien derrière. Non, on a construit une machine.
Mais d'accord, là le gars il manque d'air, il manque de trucs, de machin.
Il manque pas d'air.
Non. Mais ça veut dire qu'après pour réparer la machine c'est beaucoup plus facile. Tu comprends? C'est comme je te donnerai un exemple. C'est comme si t'as une voiture, il manque de l'essence. Bon, bah de l'essence on peut en mettre. Mais le premier c'est le moteur, il est HS.
Qu'est-ce qu'il faut mettre, là?
Alors monsieur il va nous donner des bons exemples. Allez. Le premier c'est le moteur, il est HS, c'est ça? Le premier c'est le cœur bouché, c'est-à-dire le moteur, il est HS. Le deuxième on a dit c'est le feu qui est dirigé vers le mauvais sens. Alors donnez-nous un exemple dans le moteur. Ou le c'est dirige quelque chose qui est mal dirigé.
Emballé.
Ah, l'injecteur, le carburateur.
Qu'est-ce qu'on a? On a une
courroie.
Qu'est-ce qu'elle a la courroie, ouais?
Elle est cassée.
Non, elle est pas cassée, elle est mal dirigée.
Donc, on a la tête de Delco, imaginons la tête de Delco.
C'est un problème de boîte. Bon, moi, je connais pas, moi, je vous laisse dire. Ah oui, donc c'est un déréglage, d'accord. Ça veut dire par exemple, ah voilà, j'ai un exemple. Normalement, l'essence, elle doit faire tourner le moteur. Ce qui peut se passer des fois, c'est que non seulement elle ne fait pas tourner le moteur, elle va noyer le moteur. Mais le contraire, l'effet contraire. D'accord, c'est ça?
Ouais, par exemple, le carburateur.
Elle va noyer le moteur. Ça, c'est très fa. Après, on avait expliqué c'est quoi REC, c'est quand ça descend plus vers... C'est plus compliqué, ça, dans la voiture. Ça descend plus vers les sentiments.
Ça va pas jusqu'aux roues, quoi.
Non, les roues, c'est la concrétisation.
C'est l'embrayage.
C'est l'embrayage? C'est quoi l'embrayage? Ah, c'est-à-dire que le moteur, il tourne.
Mais ça passe pas
au sentiment. D'accord. Oui, j'ai compris, ouais.
Et les roues, ça serait la
concrétisation. C'est-à-dire que le moteur, il tourne, l'embrayage, il passe, mais il n'y a pas de roues.
C'est quoi les fautes qui sont associées au quatrième quart? Les fautes qui forment le nuage du quatrième quart?
La tuile-là.
Mais les vraies fautes, la vraie faute.
Ah, les vraies fautes.
Là, comme si.
Renec, la strangulation, je sais pas, j'en peux plus.
Mais attends, les 4K, on peut les retrouver à n'importe quel moment de notre vie.
Ah bah bien sûr.
Oui, on peut retrouver des 4K. Attention, mais c'est pour...
Ça veut pas dire qu'on va nous tuer, mais ça veut dire que spirituellement, le concept est là.
Oui, mais ça veut dire que c'est pour des exemples. C'est-à-dire on peut avoir le premier cas, par exemple, le matin pour la prière. On peut avoir le troisième cas juste après.
Bien sûr.
Mais pourtant, c'est-à-dire quoi? Le nuage, il change en fonction du temps?
Non, c'est pas que le nuage il change. Exactement comme il te dit, c'est que tu cumules. Tu peux avoir un gros, plus un petit, plus un gros, donc tu cumules.
À la fin, t'es mort dans les cas.
Non,
okay, mais y a un moment
non tu vois, c'est une erreur de penser comme ça.
Il y a un moment de la journée où t'as un gros nuage.
Non, c'est une erreur de penser parce que quand le pompier il arrive, il va analyser ce qui se passe. Il va pas dire, bon, ouais, ça il est HS. Non, attention, qu'est-ce qu'il a? C'est un manque d'oxygène? C'est le cœur qui est HS? C'est le cœur qui est mal dirigé? C'est quoi le problème? Ça change tout.
On n'a pas retrouvé la tête.
Ça change tout, ça n'a rien à voir.
Ça m'étonnerait qu'il reste.
Bah oui, c'est un grand piège du Yitzhara, ça veut dire, bon, de toutes les façons, on n'a rien à perdre, de toute façon, on est déjà mort, alors tant qu'à faire, autant bien mourir.
Non mais, ma question c'est...
Comment il dit dans Yob, il dit, les gens ils disaient, mange et bois, car demain on va mourir.
Profite.
Non, c'est une erreur. C'est une erreur de faire comme ça. C'est pas parce que j'ai pas d'oxygène, c'est-à-dire que je dois brûler mon corps.
Est-ce qu'on peut avoir le corps de pierre, par exemple, pour telle mitzvah, et après on peut avoir,
Bon, après c'est compliqué, il a pas voulu... Honnêtement, le but de la Mourazaken ici n'est pas vraiment il attend pas à ce que dans la vie de tous les jours on va se rappeler de tous ces détails. Dire oui, là maintenant je suis en train de brûler, là je suis en train de faire ça, faire ça. Mais il attend simplement de nous qu'on prenne conscience qu'on a du boulot. Et qu'on est loin du compte et qu'on est très très loin d'être parfait. Une fois qu'on a compris ça, après on peut avancer. Ça veut dire, on n'est pas en train de faire un cours de Kabbalah ici, d'expliquer tel avéra correspond à ci, tel avéra correspond à ci. C'est pas le but. Il a donné des exemples. Il veut simplement il nous a pris des exemples de la vie de tous les jours. Comme la colère, des exemples de la vie de tous les jours. Même à la fin, c'était des problèmes de tzadikim, ça n'a pas accordé assez d'importance. Il veut simplement nous montrer qu'on est très loin d'être parfait. Comme c'est écrit dans c'est un mot qui est très connu, on dit que un tzadik, il se sent moins parfait qu'un rachat. Est-ce que vous me suivez?
Oui, je me suis très bien.
Un tzadik, il se sent moins parfait qu'un rachat.
Parce que s'il se sentait pas moins parfait,
il serait pas exactement. Le rachat, il dit, mais ça va, qu'est-ce qu'il y a? C'est très bien ce que je fais.
Ils
sont parfaits. Oh, ça va, parti par là, mais ça va. Le tzadik, pour une petite avéra qu'il a fait, il se sent un grand rachat.
Faut quand même, ils savent où ils en sont, quoi.
Mais oui, c'est ce qu'on a en train de dire ici.
Ils savent où ils en sont, quand même.
Ils savent où ils en sont. Mais pour eux, un petit problème, pour eux, ils voient ça énorme. Ça les dérange encore plus que nos grands problèmes. C'est exactement ce qu'on est en train d'expliquer.
Si voyait,
donc les cours suivants sont très importants. Maintenant, dans les cours suivants, on va faire de la récupération. Ah oui. Maintenant, selon les quatre étapes, maintenant, on va faire du sauvetage. À partir du chapitre 8, voilà, c'est les pompiers qui vont arriver maintenant. Ils font quoi? Bon, est-ce qu'il reste un cœur? Ça, c'est les pompiers.
Diagnostic.
T'as passé une heure et demie à perdre ton temps?
Non, même si t'as pas compris, t'as les chamas à la
fête. Vas-y, reste-moi, explique-moi. Qu'est-ce que t'as pas compris?
Est-ce que, ça veut dire, si j'ai un cœur de pierre, c'est sur toute la durée que j'ai le cœur de pierre, il faut avoir le cœur de pierre 2 minutes après avoir autre chose.
Mais c'est des moyennes, c'est des moyennes.
Ça veut dire quoi des moyennes? Ça veut dire...
C'est une moyenne.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'arrive.
Ça veut dire que...
Non, ça veut dire le cours, il passe pas, par exemple, il y a un gros nuage,
Et deux minutes après,
ça veut dire, je te donne un exemple. Tu peux avoir une personne, par exemple, qui a un petit peu de problèmes sur sa émouna, mais qui a beaucoup de problèmes sur le développement intellectuel, mais qui a peu de problèmes sur le développement sentimental, d'accord, mais qui a aucun problème avec la concrétisation. Bah, tu vois, cette personne-là, il va développer des nuages différents. C'est, selon les quatre endroits, bah, il aura un petit peu de ces quatre punitions.
Ok, donc le nuage, il se situe en
fait. Bien sûr, comme... ça peut être les quatre en même temps.
Voilà, c'est comme si tu règles une balance, tu sais, sur...
La vie est trop complexe pour dire qu'il y a un seul nuage et que ce soit là, soit là.
C'est un peu moins, etc. Mais si tu veux quelque chose d'harmonieux, tu es obligé de jouer sur tout ça.
Ah oui. Ah, donc l'Elou Nishmat.
L'Elou Nishmat.
Esther Bat Kamra. Le Chaim Chaim.
Non. Par rapport au.
Elles sont pas selon la
mais pourquoi par rapport aux Averroth, elles ne sont pas des crescendo les peines.
Ouais,
pourquoi elles ne sont pas des crescendo les peines?
C'est qui est loin de tout ça, c'est dommage. Le ton, il est très très bon, c'est un ton Rothenberg.
Ereg. Celle où tu souffles moins, c'est Ereg, alors qu'elle est en troisième. Quand tu coupes la tête, c'est d'un coup.
Mais là, on parle pas de la souffrance de la personne.
Oui, mais c'est normal. Bah, logiquement.
Là, on analyse l'anatomie.
Ok, mais pourquoi on a cette souffrance? Mais normalement, plus tu fais quelque chose de grave, plus tu dois souffrir.
Merci. Oui, mais encore une fois. Là, on ne parle pas de souffrance. Encore une fois.
C'est un symbole, en fait.
Encore, je répète. Non, mais encore une fois. On revient à la question de Yaakov tout à l'heure. On ne parle pas de souffrance. On ne parle pas de punition. On ne parle pas de bonheur, comme la question de Michel. On ne parle pas du tout de ça. Je rentre pas du tout dans ça, ni dans la souffrance, ni dans le bonheur, ni dans la tristesse, rien à voir avec ça, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de la communication qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu, de l'anatomie du corps. Donc si on parle d'anatomie du corps, donc on doit analyser ce qui se passe dans l'anatomie du corps, dans ces quatre morts, c'est ce qu'on vient de faire. Rien à voir avec la souffrance.
Non, mais j'ai compris,
on parle d'anatomie ici. Ça n'a rien à voir avec le bonheur, avec la souffrance, avec la peine, rien à voir. On parle d'anatomie. Tu vois ce que je veux dire?
J'ai compris qu'il fallait que c'était un lien avec que la peine elle ait un lien avec la guerre. J'avais compris ça. Mais ça me paraît bizarre que tu fasses un truc, quand tu fais un truc plus grave qu'un autre, tu souffres moins.
Pourquoi plus grave? Qu'est-ce qui est plus grave?
On a dit que la dernière elle était moins grave.
Non, c'est pas qu'elle est moins grave, c'est celle qui est plus dans tous les quatre cas il meurt.
Tu peux la résorber, elle est moins
grave. Non, attends, attention. Dans tous les quatre cas, il meurt.
Ouais, mais tu peux plus.
Sauf que la quatrième est beaucoup plus facile à récupérer.
Ouais, bah oui.
Mais c'est normal.
Ouais, mais tu payes plus.
Pourquoi tu payes plus?
Tu payes plus parce que de mourir par étranglement.
Oui,
par
mais c'est
au...
nous, la personne ne va pas mourir. Nous, c'est le concept qu'on cherche ici.
Ouais,
ça veut dire qu'il va mourir de quelle manière? Dans l'anatomie, quand on analyse l'anatomie du corps, il va mourir. Ça veut dire qu'on va tuer la connexion qu'il y a entre le juif et Akadosh Baruch Hu, mais uniquement au plan de l'oxygène. Ça veut dire que ça peut se récupérer très rapidement puisque toute l'anatomie est restée là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est l'anatomie qu'on essaie d'analyser. Non, j'ai pas compris ce que tu veux dire.
Moi, j'ai compris tout le cours. C'est que...
C'est injuste, tu veux dire?
Ouais, voilà. Matériellement, ça me semble bizarre.
Ouais, j'ai compris.
Le cours, il a fini.
Matériellement, dans les 4 cas, il mourrait, hein.
Oui, je sais. Mais...
Merci.